On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Bonsoir, bonsoir, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. On refait le match 34e de la saison 34. On salue les auditeurs de l'Hérault et les supporters de Montpellier. Montpellier qui recevra Marseille ce soir. Ce sera dans RTL Foot entre 20h et 23h. On salue également tous les autres, vous tous qui nous écoutez évidemment entre 18h30 et 20h. Et un petit salut amical à un fidèle de RTL, grand supporter de Guingamp, qu'on avait d'ailleurs accueilli dans le multitest, vous vous en souvenez, du multiplex. C'est un rock, c'est un menhir, on l'embrasse, l'ami qui se reconnaîtra au travers de son compte Twitter, @YannMay. Avec moi ce soir, Philippe Sanfour, chef de la rubrique football de RTL.
Bonsoir Christian, bonsoir,
bonsoir
à tous et à tous.
Qui chaque soir sans se lasser réécoute son interview exclusive de Kylian Mbappé. Bonsoir Philippe. Dominique Sévérac, le Parisien aujourd'hui,
oui,
en France.
Bonsoir à tous.
Partenaire du service des sports de RTL. Le journal qui mercredi soir n'a délivré qu'un tout petit et scandaleux 8/10 à l'immense Kylian Mbappé, fossoyeur du Bayern Munich. On avait eu le 10 face à Barcelone, on a le 8 contre le Bayern Munich. Il va falloir venir à la barre.
C'est pas facile.
Vous viendrez à la barre, Dominique Sévérac. Sébastien Tarrago, la chaîne d'équipe. Le grand retour de Sébastien Tarrago, qui a eu tout de même, mesdames, messieurs, 15 jours pour réviser ses classiques du championnat de France de Ligue 2. Bonsoir Sébastien.
Quand je pense que je suis celui qui connaît le mieux la Ligue 2 autour de cette table.
On constate.
En tout cas,
on constate chaque samedi soir.
Dominique Sévérac pourra compter sur mon appui.
Je n'ai pas terminé mon sommaire, s'il vous plaît. Et enfin, Stéphane Powels. Bonjour. Chroniqueur indépendant qui nous vient du plat pays, la Belgique, mais dont les analyses ne manquent jamais de relief. Bonsoir Stéphane.
Bonsoir et aussi TV5, j'insiste pour mon patron Yves Bigot.
Yves Bigot, qu'on connaît bien ici à RTL.
Supporter de l'AS Monaco.
Alors au menu ce soir, alors que Strasbourg est mené sur sa pelouse à la Méno face au Paris Saint-Germain sur le score de 3-1, 75 minutes de jeu dans un instant, Yannick Collant, le Paris Saint-Germain choisit-il ses matchs? À l'évidence, oui, contre Strasbourg ce soir. Lille, champion de France, comme une évidence, je vous poserai la question. Le championnat d'Europe avec un public imposé par les organisateurs, sinon pas de match pour les pays réfractaires. Mais de qui se moque-t-on? L'UEFA est-elle plus forte que les gouvernements? Là aussi, je vous poserai la question. Enfin, Real Madrid-Barcelone ce soir, 21h à suivre également sur RTL. Et pour les mêmes raisons, absence de public, sur un terrain annexe, un terrain d'entraînement, comme le disait cette semaine l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Est-ce que ça ne ressemble pas à un classico champêtre? A tout de suite, vous écoutez RTL et vous avez bien raison.
RTL, on refait le match. On refait le match.
Christian Olivier sur RTL.
On refait le match, émission 100% interactive, filmée, réalisée par Damien Béchiot. Bonsoir Damien.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous.
Vous pouvez nous voir sur RTL.fr ou sur la toute nouvelle application de RTL avec l'ensemble des podcasts de l'offre sportive et de toutes les émissions, bien évidemment, de RTL. Vos messages également sur le compte @RTLFoot. Tout de suite, allez-y, relayez ces messages par l'ami Damien Damien Béchiot, on ne peut pas tout faire, la réalisation de l'émission, mais relayé par Baptiste Durieux. Bonsoir Baptiste.
Bonsoir tout le monde.
Alors messieurs, Strasbourg-PSG, on file à la Méno, 78 minutes de jeu, le PSG mène sur le score de 3-1, et on salue Yannick Collant. Bonsoir Yannick.
Bonsoir Christian, bonsoir à tous, avec un bon coup franc pour le PSG, plein axe à 25 mètres, ça va partir, c'est Sarabia ou Paredes, c'est Paredes qui va, c'est bien parti, c'est dedans. Et c'est dedans, il est superbe, il est au ras du poteau gauche de Matsels, 4-1 pour le PSG, superbe coup franc à 25 mètres, la Matsels ne pouvait rien là-dessus. Et ben voilà, vous tombez bien, le PSG a définitivement...
Ça s'appelle le talent Yannick, ça s'appelle le talent.
Exactement, le PSG a plié le match, voilà 4-1, le match était honnêtement était bien plié à la mi-temps, 3-0, c'était très très rapide en première mi-temps avec un Mbappé qui se croyait encore à Munich, et donc ça allait un peu trop vite pour les Alsaciens, et ensuite Strasbourg qui a eu le mérite de ne pas lâcher, qui a quand même réussi à marquer un but par un petit jeune du centre de formation, voilà, mais le score est le 4-1 à la 79e minute.
Vous nous avez donné tous les buteurs, Yannick?
Alors, on avait Mbappé à la 15e, Sarabia pour le 2-0, Moïse Kine 3-0 et à l'instant, donc Paredes pour le 4-1. Et le jeune Strasbourgeois qui a marqué, c'est Moïse Saï.
Merci Yannick. Tu interviens évidemment dès que possible, antenne ouverte, s'il se passe quelque chose. La notion du talent, évidemment, en tout bien, tout honneur et avec du second degré, vous l'aurez compris. Un autre résultat, le Paris FC 3, le leader de la Ligue 2. Sébastien Tarrago, on fait match nul cet après-midi. Un but partout. Il va falloir percer le mystère Navas. qui est sorti à la mi-temps.
Parce que c'est que cette histoire.
A priori, c'est pas un mystère. C'était manifestement prévu, hein, puisque Sergio Rico est allé s'échauffer dès l'entrée des joueurs au vestiaire. Donc, c'est pas le
c'est quoi,
signe
le but
que Keylor Navas avait un souci.
Philippe, c'est quoi le but? C'est une pochettinette, quoi. Parce que ou tu le fais pas jouer, ou tu le fais jouer. C'est quoi l'intérêt de faire jouer 45 minutes? J'ai jamais vu ça.
Si on a compris, c'est de mener 3-0 à la mi-temps. Bon, on sait pas qu'on va mener 3-0 à la mi-temps.
Tu ne fais pas sortir Mbappé en vue du match contre le Bayern Munich.
Alors peut-être que c'est plus compliqué de faire sortir Mbappé que Navas en termes de gestion politique, de gestion de vestiaire.
On n'est pas capable d'expliquer à Mbappé qu'il faudrait éviter, qu'il reste un quart d'heure de jeu, une blessure en vue du match retour. Non, je pose des questions.
Certains ne sont peut-être pas d'accord avec moi. Moi, je ne comprends pas qu'il ait joué ce match à Strasbourg déjà. Je ne comprends pas qu'il ait fait le déplacement à Strasbourg.
Mais là, par contre, non, je ne suis pas d'accord, effectivement. Autant je trouve ça curieux qu'il aille jusqu'au bout, même si on comprend bien pourquoi. Et il a sans doute envie de marquer encore un but. Mais qu'il joue ailleurs, on ne se pose pas la question. C'est-à-dire qu'ailleurs, au Real Madrid, au FC Barcelone, à Manchester, ils jouent les joueurs. C'est tout. Il y a des titres à aller gagner. Et en l'occurrence, pour le Paris Saint-Germain, il y a une catastrophe à éviter, à savoir ne pas être champion. Ce serait une catastrophe.
Vous n'aurez pas échappé qu'il y a une hécatombe de blessés dans tous les grands clubs européens. Et qu'on peut éviter de faire jouer M. Mbappé sur le dernier quart d'heure
Vous ne m'écoutez pas.
Ou alors vous me dites que Mbappé vise et ne vise que des statistiques et veut accumuler les buts.
Cher Christian, vous ne m'écoutez pas. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'il aurait dû sortir. En revanche, je ne suis pas d'accord avec mon ami Dominique, qui lui pense qu'il n'aurait même pas dû jouer une minute de ce match.
Mais on a déjà eu le débat au retour de la Croatie. Deux jours après, il joue à Nîmes, il marque, il fait un très bon match.
Deux jours après.
Et finalement, qu'est-ce qui se passe plus tard? Eh ben, à Nantes, il a une alerte et ça lui met sur le flanc pendant 2-3 semaines. Et il ne peut pas aller au rassemblement de l'équipe.
Breaking news. Pour Navas, me signale Baptiste Durieux, qui est au courant de tout. C'est une précaution. Principe de précaution après une toute petite alerte musculaire.
Alors, si je peux me permettre pour répondre, j'étais pas d'accord avec mon ami Dominique quand il vient nous dire c'est parce que c'est 3-0 à la mi-temps, on peut changer de gardien. Alors c'est vraiment que ton deuxième gardien, tu le considères comme une clinche, hein, excuse-moi. Alors j'ai plutôt envie de dire ce qu'est l'information qu'on vient d'avoir maintenant. Effectivement, s'il a une petite pointe,
là c'est logique.
Alors c'est logique qu'il sorte à la mi-temps. Là, je pense que c'est pas une pochettinette, c'est juste un choix sportif. Pour revenir et terminer sur Mbappé.
Oui, parce que là, on peut aussi ouvrir le débat Mbappé.
Sur les deux avec Mbappé, je vais aller entre les deux. Moi, je pense qu'il doit partir avec le groupe. Ou il est sur le banc parce qu'on décide de pas prendre de risque parce qu'il y a un match important. Ou on le fait jouer un peu, mais pas, on doit le sortir bien avant. Toi, dire il doit pas jouer, ça veut dire qu'on donne des statuts à des gens. Sébastien Tarago, il a raison. Vous pensez que Benzema, on va le faire souffler à un petit match?
Déjà, Benzema, il vient plus en sélection. Mais
moi, je parle pas de la sélection. Je parle avec le Real Madrid.
Parce que l'enchaînement, il est Ukraine, une demi-heure au Kazakhstan, Bosnie, Lille, Bayern, Strasbourg. Vous pensez bien qu'il va jouer contre le Bayern mardi? Donc voilà, c'est ça l'enchaînement. Depuis l'Ukraine, alors vous allez me dire,
le deuxième match était remplaçant avec l'équipe de France.
Une demi-heure au Kazakhstan, mais une demi-heure quand même.
Donc on est d'accord.
Sur un terrain synthétique.
Donc on est d'accord, il fallait le préserver pour cette fin de match.
Non, mais lui, il veut même pas le faire jouer. Zéro minute.
Non, c'est un peu exagéré, peut-être.
Je pense que Paris Saint-Germain pouvait gagner à Strasbourg sans lui. Il me semble que le score me donne raison, il me semble.
Il n'a pas été important, là, Mbappé, sur le match. Sans lui, je ne suis pas sûr que ça passe comme ça.
Il y a une barre de Thomasson, donc Strasbourg peut ouvrir la marque, même si on voyait que le Paris Saint-Germain avait une maîtrise collective plus importante. Mais il débloque quand même le match sur une première occasion de classe qui change tout.
Vu le match en bois qu'il a fait contre Lille, c'était peut-être là qu'il fallait le faire souffler, c'était contre Lille. Non, vous avez mis combien dans le Parisien contre Lille? 3. Vous avez été juste.
Et on va aller à la méno parce que je crois qu'il y a un Paris Saint-Germain qui vient de se blesser actuellement.
Non, c'est un coup.
Oui, c'est Ander Herrera qui s'est pris un coup à l'arrière. Sur le fessier, sans doute un coup de genou, une petite béquille. Mais il boitille, mais ça va, ça a l'air d'aller. Ça me semble pas extrêmement grave. Toujours 4-1, 84e minute.
Ouais, on va purger tous les dossiers. comment s'appelle-t-il? Neymar.
Oui, je connais pas.
Il a fait exprès de prendre un carton rouge pour ne pas jouer à Strasbourg.
Christian. mais vous avez vu le carton rouge quand même. Vous avez vu son énervement, vous avez vu son manque de maîtrise.
Alors j'appelle Philippe Sanfourche à la barre. Parce que souvenez-vous.
Mais parce que Philippe Sanfourche, il va dire qu'il l'a fait exprès.
Il était installé confortablement dans le canapé de son salon et il nous disait mais c'est scandaleux d'avoir sorti Neymar d'ailleurs.
Ah bon?
Oui, un deuxième carton.
Ça, c'est encore autre chose.
Moi, je réitère. Pour moi, le deuxième carton jaune, il n'y a pas de carton. Il va chercher un ballon. Donc, il y a une petite poussette sur le bord de la touche. C'est une faute. Pour moi, il n'y a pas de carton.
Comment est-ce possible, Philippe, que tu dises ça?
Philippe,
en étant neutre,
tu ne peux pas pas dire une petite poussette parce que ça, c'est pas la vérité, Philippe. C'est pas une petite, c'est une poussette. C'est une grosse poussette pour récupérer
Philippe,
le ballon.
C'est rien du
Philippe,
ça arrive tous les jours dans le match, à n'importe quel moment.
Philippe, excuse-moi. Tu vas répondre, effectivement. Mais tu peux pas balayer ce que je suis en train de te dire d'un revers de la main avec une certaine forme de condescendance.
Non,
parce qu'on peut débattre.
Vous lui posez une question, il vous balaye.
C'est tout. C'est tout. C'est une petite poussette, enfin.
Pour moi, c'est une petite poussette. Mais Philippe, pas un carton, surtout quand il y a un premier et que ça veut dire un deuxième.
À 300 mètres de l'hôtel, il y a Optique 2000, c'est ouvert lundi à 10h.
Philippe, t'es neutre. Alors tu vas me dire, ouais, je suis lillois. Peut-être, je regarde ce match. Après son premier jaune, tu sais qu'il va déraper Neymar. Tout le monde voit qu'à un moment, il va péter un boulard. C'est pas une petite poussette. Il le pousse, il doit prendre une deuxième jaune. Qu'est-ce que c'est stupide ? Comment tu peux...
C'est ton analyse, mais
Philippe, comment tu peux valider un comportement comme
mais je
ça
peux, je
en, sachant, en sachant, mon cher Philippe, que derrière, il y a des objectifs importants pour le club. Il, il s'est comporté comme un petit joueur. Il s'est comporté comme un petit joueur.
Donc ce n'était pas un rouge, en tous les cas, prémédité. C'était un vrai pétage de plomb.
Deuxième jaune, pétage de plomb.
C'est quand vous faites un tacle à la carotide et que vous blessez un joueur. Là, c'est quoi ? C'est juste la volonté d'aller chercher le ballon dans les dernières minutes pour montrer que justement il veut essayer. Alors, il le fait mal, et globalement, le match n'est pas bon, et il y a de la frustration. Et à son âge, on peut se dire que c'est dommage, mais de là à ce que ça nécessite une expulsion, non, pour moi, non.
Enfin, il y a un manque de maîtrise absolu, quand même. Et comme avec lui, ce n'est pas la première fois, on sait très bien de quoi ça relève. Il est frustré, il est agacé, et il n'est pas capable de se maîtriser. 29 ans.
Et le pire, c'est que le joueur de Lille, il prend une carte aussi à cause de Neymar, parce que lui, il la méritait pas.
Ce qui me dérange, Philippe, c'est que, comme l'a dit Sébastien, c'est sur combien de tiers rouges de sa carrière ?
Oui, ça fait... Ça, oui, mais il y en a eu des beaucoup plus justifiés que celui-là.
On avait fait ce procès à Zidane et à Patrick Vieira, qui avait dépassé la barre des 10 aisément, voire qui était entre 10 et 20. C'était autour de 14. On a fait ce procès à Zlatan Ibrahimovic. On ne peut pas être ces grands joueurs-là et avoir enchaîné les cartons rouges. Je crois qu'il approche de la dizaine dans sa carrière, l'ami Neymar. C'est pas possible.
Non, mais le chiffre est terrible pour Neymar, franchement. C'est qui est ressorti à cette occasion. C'est le fait qu'il ait joué, en gros, moins d'un match sur deux pour le Paris Saint-Germain depuis qu'il est arrivé. C'est terrible. Voilà, c'est tout. C'est pour différentes raisons. Souvent des blessures. Parfois des blessures liées à des coups. Donc, il n'est pas responsable. Mais c'est terrible. C'est pas possible, en fait. Alors, les grands joueurs, ils jouent.
C'est une statistique relevée par l'ami Giovanni Castaldi que vous retrouverez avec Xavier Domergue à partir de 20h, car Eric Silvestro est sur le banc des remplaçants ce soir. On l'a mis au vert un peu. Et Giovanni Castaldi...
S'occupe de ses enfants.
Quoi. Giovanni Castaldi nous dit que depuis leur arrivée en 2017, Kylian Mbappé a joué 162 matchs et a marqué 122 buts. Neymar a joué 106 matchs, donc 106 matchs contre 162 matchs, et a marqué 83 buts. 83 buts contre 122 buts.
Oui, qui est donc la vedette de cette équipe
56 matchs d'écart.
56 matchs d'écart, et comme vous êtes fort en calcul mental, 122 buts et 83 buts, ça nous fait...
Oui, mais ça, c'est encore autre chose. C'est pas les mêmes postes. C'est autre chose.
Ça nous fait beaucoup.
En tout cas, jouer moins d'un match sur deux,
c'est énorme terrible. Statistique dans les deux cas.
Mais est-ce qu'on va quand même...
La seule chose qu'on peut déplorer, c'est effectivement...
Ah, il est sorti quand même.
88e.
Il se ménage.
Christian, est-ce qu'on peut quand même...
Il n'a pas l'air content, d'ailleurs, Nicolas.
Si, ça va.
Non, il a regardé longuement le panneau du quatrième arbitre d'un air effectivement agacé en se disant « Est-ce que c'est mon numéro qui va sortir ?» Voilà. Il l'a attendu, mais effectivement, c'est bien lui.
Là, vous exagérez.
Vous êtes terrible.
Est-ce que Christian
est remplacé par qui, Kylian Mbappé ?
Par le jeune Nagera. Et Simone s'est rentré à la place d'Herrera.
Stéphane Powell. Est-ce que je peux me permettre de dire, puisque j'ai l'occasion d'avoir mon ami Philippe Sansfourche en face de moi, que n'en déplaise, mais moi je dis tout le temps que Neymar, son comportement n'est pas digne d'un grand joueur du Paris Saint-Germain et qu'il a pollué Kylian Mbappé. Vous en faites ce que vous voulez, mais son comportement fait que Mbappé, à un moment, n'a pas pris le droit chemin. Il a attrapé une espèce de petit boulard à un moment donné qu'il ne fallait pas faire, et le comportement, laissez-moi finir, contre Lille, le comportement d'Mbappé qui n'en touche pas une, il est aussi pollué par l'attitude de Neymar sur le terrain. Vous en déplaise, mais c'est un constat.
La réponse de Philippe Sansfourche.
Moi, il y a un moment, je trouve que c'est insulter les adversaires, c'est estimer. On n'arrête pas de lire, d'entendre, de commenter le fait que le PSG a été nul contre Lille. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire aussi que Lille est venu faire
c'est
un énorme match ?
C'est la première fois que vous venez dire que Lille a été bon.
Et qu'ils ont fait en sorte que le PSG ne parvienne pas dans cette rencontre.
Ça, c'est de l'argument parce que vous êtes dans les cordes. C'est de l'argument parce que vous êtes dans les cordes. Parce que je vous ai entendu.
Mais non, mais pas du tout.
Ah, donc vous me dites que Lille était plus fort que Paris, vous êtes d'accord ?
Qu'on ne puisse pas entendre le fait.
C'est comme quand on me dit le Paris Saint-Germain choisit ses matchs, le Paris Saint-Germain s'en fout des compétitions nationales.
C'est la question.
C'est la question qu'on va poser.
Le Paris Saint-Germain a remporté 27 trophées depuis l'arrivée du Qatar.
Parlons de cette saison.
Allez, 27 Philippe. Trophées hexagonaux. Les Coupes de France, les Coupes de la Ligue, les trophées des champions, les matchs. Bon, ils ont laissé passer, effectivement, un titre de champion contre un Monaco qui a été demi-finaliste de Ligue des Champions, avec Kylian Mbappé qui était en train d'exploser, avec Bernardo Silva, avec Falcao, avec des grands joueurs. Et là, peut-être qu'effectivement, ils vont perdre ce championnat.
Et surtout, ils arrivent sur le banc du Paris Saint-Germain.
Mais ça arrive. Leicester a gagné le championnat d'Angleterre
Attends, Philippe,
il y a 5 ans.
Philippe, cette saison, il y a un souci.
Petite musique, messieurs, car vous n'êtes pas chaussés du casque.
Très bien.
Donc, il y a une petite musique qui annonce la publicité.
Allons-y.
Et ensuite, vous pourrez répondre à Philippe Sansfourche et répondre également accessoirement à ma question. Le Paris Saint-Germain choisit.
Vous venez à son
match.
Aide, il était en difficulté.
Je crois qu'il était en difficulté.
Et je vous livre une petite phrase, la petite phrase de Laurent Blanc. Ça vous permettra de réfléchir. Pendant la publicité. Déjà en 2014 et après une victoire homérique du Paris Saint-Germain face à Barcelone 3-2, eh bien Laurent Blanc disait inconsciemment, c'est vrai, que les joueurs sont peut-être plus motivés pour jouer les grands matchs. Publicité.
On refait le match sur RTL. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
Le temps additionnel à la Méno est toujours 4-1 pour le Paris Saint-Germain face à Strasbourg. Yannick Collin, c'est bien cela?
Exactement, avec les Strasbourgeois qui partent en contre-attaque. 2-1 avec Zoé qui va mal le jouer. Et c'est l'intervention de Bakker qui va sauver le PSG d'un éventuel but strasbourgeois. Donc toujours 4-1 et il nous reste à peine 40 secondes à jouer ici à la Méno.
Alors j'insiste quand même un tout petit peu sans être trop lourd, mais on a quand même aperçu, ce sera mon commentaire, ça n'engagera donc personne autour de cette table, eh bien, vu Mbappé dodeliner de la tête lorsqu'il est sorti et rejoindre directement les vestiaires. Voilà. Bon.
Oui. J'espère que c'est juste, parce que c'était donc la 89e minute, j'espère que c'est juste pour aller faire des soins et avancer la récupération. J'espère.
Il faut arrêter, Christian, de surinterpréter chaque geste ou chaque mimique de Kylian Mbappé, qui a le droit de bouder.
Attendez, c'est la rançon de la gloire, cher ami. On ne peut pas dire que Mbappé va être bientôt triple ballon d'or, va écraser tout sur son... C'est une star, on est obligé d'épier ses faits et
gestes. Notre confrère bien-aimé Grégory Schneider dans Libération a fait un papier mercredi qui s'appelait « Dans la tête de Kylian Mbappé », mais moi, je n'y suis pas dans la tête, donc je ne peux pas à chaque fois me dire...
Et c'est fini à la Méno.
Mais lui, il est peut-être.
C'est terminé à la Méno, c'est validé. 4-1, on est d'accord. Merci Yannick Collin. Décryptage, évidemment, réaction à 20h dans RTL Foot. Donc, pardon.
Non, c'est pas du tout une critique de Grégory à qui j'en ai parlé hier, c'était un superbe papier. Mais lui, il était vraiment dans la tête. Moi, je n'y suis pas, donc je ne peux pas me permettre de surinterpréter, d'essayer de décortiquer.
Mais tout ce personne n'a surinterprété.
Bah si, vous me dites, il est parti.
Il est parti en dodelinant de la tête.
Dodelinant, c'est péjoratif pour moi.
Ah bon?
Ah bah oui.
Ça sous-entend qu'il
n'était pas content. Il boudait.
Christian,
vous êtes des esprits tordus.
Mais oui, bien sûr, maléfique.
Il boudait de la tête, mais... il rejoint les vestiaires.
Alors que vous êtes purs.
Les faits, rien que les faits. Les faits. Bon, le Paris Saint-Germain choisit-il ses matchs?
Mais oui,
quand
vous avez effectif du Paris Saint-Germain, n'en déplaise à mon camarade Philippe Sansfourche, et que vous perdez 8 matchs dans la saison en Ligue 1, oui, vous choisissez vos matchs. Oui, bien sûr. Mais je peux le concevoir. Simplement, quand vous avez cet effectif-là, vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas être champion à cause de cela. Donc il faut choisir ses matchs, oui, mais mieux les choisir.
J'appuie encore plus fort sur cette question. Sur la chaîne L'Équipe pour laquelle vous travaillez, oui. Sébastien Tarrago,
il y a beaucoup de gens.
Yoann Micou, ancien joueur.
Très bien, appelez-le.
Mbappé, donc je veux dire, quand on dit le PSG, forcément, donc c'est certains joueurs. Mbappé choisit ses matchs, je trouve ça dérangeant. Philippe Sansfourche.
Ça, c'est son avis. Il est en droit de l'avoir.
Je pense que Johan se trompe.
Mbappé choisit ses matchs. S'il choisit ses matchs, globalement, la plupart du temps, il choisit les bons quand même. Parce que quand on fait la liste, elle a été établie
sauf Lille.
Des stades dans lesquels il a marqué.
On parle de la Ligue des Champions.
Ligue des Champions. Voilà. À Manchester, il a marqué. Tous. Chez les deux Manchester, il a marqué au Real, il a marqué à Barcelone, il a marqué à Munich. Voilà, il marque de son empreinte à 22 ans déjà l'histoire de ce club. On verra si l'histoire est encore plus belle à la fin de saison, mais je ne vois pas où on peut trouver une once de problématique dans le comportement d'Mbappé sportif. Qu'on n'aime pas le garçon.
Non, on parle du PSG.
Qu'il a trop de talent et que ça se voit et qu'il le sait. Eh ben oui, il pue le talent. Et
Philippe, le Paris Saint-Germain maintenant. Le Paris Saint-Germain choisit-il ses matchs?
Ce n'est pas le PSG qui choisit ses matchs, Christian. ce ne sont pas les joueurs, c'est la raison d'être du Paris Saint-Germain qui fait signer des stars depuis moult années et qui leur confie deux choses, un salaire énorme et une obsession Ligue des Champions. J'ai assisté à des conférences de presse de présentation d'Aurel Di Maria, de Neymar. On leur posait une question, la Ligue 1. Ils ne citaient même pas le match contre Marseille parce qu'ils ne savaient même pas qu'il y avait un rendez-vous important pour les supporters. Neymar n'était pas au courant. Aurel Di Maria n'était pas au courant. Thiago Silva, quand il a signé, il n'a pas dit je sais qu'ici on parle.
C'était le début de l'histoire du PSG.
Mais quand ça, même. Zlatan Ibrahimovic, il n'a pas dit je sais qu'ici on parle beaucoup du match contre Marseille. Ils ne parlaient dans leurs conférences de presse de présentation en 2012, en 2014, en 2017, uniquement de la Ligue des Champions. Donc, à force d'avoir cette obsession qui a été parfois dévorante, qui a été parfois même contre-productive, parce qu'ils ont tellement parlé que de ça qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, que Laurent Blanc a transformé, il a joué 300 matchs d'une certaine façon, il en a joué un d'une autre. Ça a été incompréhensible. Donc cette obsession...
Inconsciemment.
Elle a été,
c'est comme le disait Laurent Blanc en 2014.
Mais je peux vous dire que moi, je parle avec des joueurs ou avec leur entourage, je peux vous dire que la Ligue 1, ils veulent la gagner cette année. Hein.
Stéphane Pouels.
Alors, je rejoins assez sur la politique du club qui a envie de gagner la Champions League et que ça peut, pour certains joueurs, diminuer involontairement la capacité de volonté de gagner un match. Moi, je suis désolé. Je vais revenir sur ce match de Lille. Il y avait Nantes aussi. Il y a un moment, il y a deux choses. Où t'es pas dedans, et ça peut arriver, de faire un mauvais match, ou, je suis désolé, il y a aussi une attitude contre Lille, et là j'en reviens, c'était mon analyse, Philippe, je pense que Lille est qui a montré du courage et l'abnégation, qui est allé gagner à l'arrache, hein, comme on dit dans le jargon du foot, et que Paris, quand même, l'équipe est plus douée que Lillois, même si je suis Lillois, sauf que moi j'ai vu une suffisance de certains. Pas de tous, mais de certains. Et ça, il faut pouvoir le dire aussi. C'est qu'il y a aussi des joueurs à Paris. Ils se sont dit, je vais rentrer dans ce match contre Lille. Il y a Bayern mardi, ça va être important. Et ils se sont dit, Et ils se sont dit, il y a un petit côté boulard. On appuiera un moment sur l'accélérateur et on fera la diff. Ceux qui ne l'ont pas fait, puisque en face de eux, ils ont eu des mecs comme André qui leur ont rentré dans la gueule. Et Mbappé, vous êtes là, grand joueur, Kiki, Ballon d'Or. Moi, je veux bien ça, grand joueur. Beaucoup de talent, ce que j'ai vu en Champions League. Mais contre Lille, il ne touche pas. Un cuir. En fait, il faut pouvoir le dire.
Mais Stéphane, là, pardon, mais moi, ça me paraît pas sérieux parce que je regarde ces statistiques et je constate qu'en Ligue 1, il marque beaucoup de buts. Donc, il a le droit de rater un match. Il a raté son match contre Lille.
Là, on parle de Kiki, mais de l'ensemble de Paris.
Moi, je l'appelle pas Kiki.
Mais si, pour moi, c'est Kylian Mbappé.
Philippe Sanfour, je t'appelle Kiki. 32 buts, 37 matchs.
C'est faramineux. En Ligue 1, il est à 22, là, je crois, ce soir.
22, 26 matchs joués. Et en Ligue des Champions, 8 buts.
Oui, 8 matchs.
Que parfois, il ait une attitude qui puisse agacer, oui. Que parfois, il rate ses matchs, oui. Que parfois, il ait l'air moins surmotivé dans certains matchs de Ligue 1 que dans des matchs de Ligue des Champions, oui aussi. Mais tout ça me paraît être dans la raisonnable. Raisonnable.
Mais vous me ramenez à ça, Mbappé. Moi, je vous parle du Paris Saint-Germain.
De l'équipe. Excusez-moi.
Mais parce que Neymar n'est pas dans le match, Mbappé n'est pas dans le match contre Lille, et donc ça pollue un ensemble.
Il y a quand
groupe.
Même de grands matchs dans le championnat de France de Ligue 1 que le Paris Saint-Germain cette saison a
Lyon,
loupé.
Ouais, bien sûr.
Battu à domicile aussi, par Marseille 1-0. Ouais. Battu deux fois par Monaco. C'est bien cela. 3-2 et 2-0 au Parc des Princes. Battu à domicile par Lyon 1-0. Battu par Lille à domicile 1-0. Ça, ce sont des grands matchs.
Mais c'est une équipe qui, à mes yeux, collectivement, est faible. Faible. Dans le jeu, elle me semble incapable de produire ce qu'on appelle produire du jeu, de dominer une équipe, d'affermir sa supériorité. Pourquoi elle brille encore contre le Bayern ? Parce qu'ils se font manger tout le match. Et ils sont dans des zones de transition qui permettent d'exploiter à merveille les qualités de Neymar, de Mbappé.
Mais elle est faible, voilà, elle est faible dans le jeu, mais elle n'est pas faible dans le côté héroïque et mental.
Mais oui,
c'est-à-dire
on est d'accord.
Elle compense, sa faiblesse dans le jeu, le fait qu'elle n'ait pas de solution dans le jeu, par des qualités de solidarité incroyables.
Mais en Ligue 1, ça ne suffit pas, parce que cette solidarité-là, elle n'est pas expressément mise en valeur.
Parlez-moi quelques secondes quand même d'un autre grand match à venir. Ce sera mardi, ce sera sur RTL, 20h45, jusqu'à 23h30 face au Bayern Munich. Le Bayern doit l'emporter par 2 buts d'écart. C'est simple, il n'y a pas d'autre scénario. 2 buts d'écart pour renverser la tendance et se qualifier. Jouable ou pas jouable pour le Paris Saint-Germain?
Tout peut arriver sur cette rencontre. On l'a vu sur le match aller. Je pense qu'on aura certainement un deuxième acte qui sera de la même teneur. Il peut y avoir 4-2, 4-3, 5-2 dans un sens comme dans l'autre. On va retrouver très certainement au bout de quelques minutes le même schéma, c'est-à-dire que le Bayern va confisquer le ballon et Paris va jouer la transition Est-ce qu'il le fera de manière aussi clinique ou pas? C'est tout l'enjeu de la rencontre.
Bon, là, il y a quand même Coman qui s'est encore blessé cet après-midi. Là pour le Bayern Munich, ça devient un joueur si jamais il n'est pas
un but partout cet après-midi, effectivement. Ouais. Tu non,
c'est important de signaler.
Un but partout entre Berlin et...
L'Union Berlin et
Bayern Munich. Et effectivement, Kingsley Coman
est sorti à la mi-temps.
Touché au genou.
Mais vous connaissez aussi le dicton espagnol, hein? Vous connaissez le dicton espagnol?
J'ai peur.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et le deuxième, ne pas brûler la peau de l'ours avant de l'avoir vendu, c'est un dicton de remontada.
De l'avoir tué.
Oui, de l'avoir tué. C'est ce que j'ai changé de micro.
C'est
ce que j'ai changé de micro, je suis perturbé. J'ai juste en train de vous dire que les Parisiens, restez calmes, parce que vous êtes tous en train de vous enflammer, et qu'il pourrait bien arriver un accident contre le Bayern de Munich.
Bon, messieurs, ça foisonne sur les réseaux sociaux, et notamment sur le compte @RTLFoot, avec Baptiste Durieux.
Bien sûr, message de Laurent. Le PSG choisit ses matchs, mais ses différents adversaires aussi, si Paris a perdu beaucoup cette saison. C'est aussi parce que les équipes ont vu que c'était possible de gagner contre le PSG et ont sorti de très grosses prestations. Message Johan. Cette saison, bien sûr que le PSG choisit ses matchs, mais il en choisit trop peu, c'est ça le problème. Et Boris nous dit, c'est compliqué d'être à 100% à chaque rencontre, d'avoir 11 joueurs mobilisés qui tirent dans le même sens quand l'équipe change avec les blessures, le Covid et l'instabilité à plusieurs postes depuis plusieurs années.
Le Paris Saint-Germain choisit-il ses matchs? C'était la première question de cette première demi-heure dans Fait le Match. Le Paris Saint-Germain qui est allé gagner, donc qui a choisi ce match à la Méno face à Strasbourg cet après-midi, 4-1. La suite du programme après 19h, on fait le match. Lille, champion, est-ce une évidence? Le championnat d'Europe des Nations avec un public imposé par les organisateurs, sinon pas de match pour les pays réfractaires. Mon dieu, l'UEFA est-elle plus forte que les gouvernements? Enfin, le Real Madrid-Barcelone, la fiche de ce soir, le Classico, sur le terrain d'entraînement du Real Madrid, est-ce que ça ne ressemble pas à un Classico champêtre? 18h58, la pub, les informations de 19h et la suite d'On fait le match.
RTL.
On refait le match. On refait le match sur RTL.
Avec Christian Olivier.
On fait le match avec Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football de RTL. Dominique Sebrac,
oui,
notre
bonsoir.
Partenaire, le Parisien, aujourd'hui en France. Et Sébastien Tarrago, la chaîne d'équipe, spécialiste de la Ligue 2 pour RTL.
Je vais finir par demander des piges. Hein.
Ah oui, il faudra d'abord aller sur les terrains de Ligue 2.
Mais je pense que j'y vais plus que vous, cher Christian.
Cette saison.
Clermont Foot, vous connaissez?
Oui, je connais bien. Mais ouais. Le Charletti, vous connaissez?
Oui, vaguement. Mais ouais. Moi, j'y vais, mieux je me porte, vu l'ambiance qu'il y a là-bas pour voir des matchs de foot.
L'ambiance, elle est partout pareil.
Oui, mais Charletti, c'est quand même très particulier. Vous savez très bien que c'est un stade extrêmement raté, avec cette piste d'athlétisme affreuse.
Et alors, c'est pas de la faute des joueurs qui occupent actuellement?
Bien sûr que non.
Quelle place du championnat?
Ils vont mieux, ils sont 5e ou 6e.
Non, je pense qu'ils sont 4e même, non? Ou 5e?
Non, pas 6e.
Dès que vous êtes en difficulté,
vous avez dit 5e ou 6e, je dis 4e.
Allez,
Regardez avant la journée.
Vous êtes fâchés.
Comme ça.
Parce qu'il y a une caméra, ça tourne.
Bah oui.
19h06. Bon,
on perd les gens là. Là, vous voulez vraiment perdre les gens. Restez avec nous, messieurs dames, s'il vous plaît.
Il faut de la bonne humeur, de la bienveillance. Et puis voilà. Donc, le PFC, on fait match nul partout. Le Paris Saint-Germain est allé gagner à Strasbourg sur le score de 4-1. Il y a quelques résultats.
Le premier coup franc de Paredes.
City qui s'est incliné. Pardon ?
C'est le premier coup franc de Paredes au Paris Saint-Germain, je crois.
City, ça, franchement, c'est une bonne info.
City qui s'est incliné à domicile face à Leeds, 2-1.
Leeds qui était réduit à 10 en plus. Ouais.
Liverpool qui a gagné contre Aston Villa, 2-1. Et actuellement, 33 minutes de jeu. Chelsea qui mène sur la pelouse de Crystal Palace, 3-0. En Espagne, on attendra plus sûrement. Donc 21h, Real Madrid, Barcelone, avec cette question, est-ce que ça ne ressemble pas à un classico champêtre? Question qui vous sera posée dans un bon quart d'heure. Lille, champion, est-ce que c'est une évidence? Pour vous?
Non, mais non. Alors,
on rappelle que Lille est allé gagner à l'arrache, 2-0, ouais. C'était hier sur le terrain.
De Metz. Il reste 6 journées, Christian. Comme l'a dit Stéphane, il n'y a pas un fond de jeu suffisant pour qu'il remporte les 6 matchs. Il va y avoir un ou plusieurs accros. Donc le Paris Saint-Germain peut aussi revenir, ou d'autres, Monaco, Monaco, Lyon, j'y crois plus, mais Monaco et Paris sont clairement des... En plus, Monaco est vraiment dans une position de chasseur qui lui convient parfaitement dans l'ombre. Personne n'en parle trop, même Nico Kovacs nous fait croire qu'il n'y croit pas. Donc voilà, on ne peut pas dire ce soir, à 6 journées de la fin, Lille est assuré d'être champion.
Non, mais moi qui suis...
Stéphane Powell.
Vous le savez bien, je ne m'en cache pas que mon petit cœur est lillois et que...
Oui, mais si on peut rester objectif...
Eh bien, je vais rester objectif. Malheureusement, pour les raisons qu'a dit Dominique, je pense que hier, c'était à l'arrache, quoi, le jeu de mots, la Bourraca, mais c'est un petit peu ça, quoi. Si Bourraca ne met pas ce but, c'est, tu grattes tout le match. C'est pas la première fois qu'on a gagné. Alors vous me dites, les champions gagnent ce genre de match. Moi, j'ai envie de mettre une petite pièce, et Dieu sait que ça me fait mal de le dire, sur l'AS Monaco. Parce que Paris va être concerné par la Champions League ou pas, mais quelque part, ils vont perdre des plumes. Qu'ils soient éliminés ou qualifiés, ils vont avoir la tête à cela. Lyon, je pense qu'ils n'ont pas l'effectif et la régularité pour pouvoir vraiment venir titiller jusqu'au bout. Peut-être, mais Lille, je pense qu'à un moment, voilà, on sature. Quoi. Tu ne peux pas demander à Benjamin André, à tous les matchs, de faire Forrest Gump à tous les matchs. Il y a un moment, il n'y a pas que ça dans le foot. Et je pense que l'AS Monaco propose, depuis 5-6 matchs, vraiment de la qualité pour pouvoir être champion de France.
Sébastien Tarago.
Oui, mais je comprends bien ce que vous dites et je partageais vraiment ces analyses. Mais enfin, je constate que pour l'instant, Lille, ils sont toujours là et que oui, ils sont moins bons. Et ça fait un moment que ça dure. Ça fait bien un mois et demi, deux mois que ça dure et ils continuent à gagner leur match. Donc,
il en reste
de moins en moins quand même.
Prochaine journée, Lille reçoit Montpellier.
Ouais.
Pas facile à jouer Montpellier. Ouais. Journée suivante, Lyon reçoit Lille.
Oui. Pour moi, ça se joue là.
Alors, je ne vais pas vous donner tout le calendrier, évidemment.
Ils vont à Lens aussi. Hein. Ils vont à Lens.
Ça reste un derby.
Ça sera un match. On voit ce que Lens aussi a
dans le ventre. Oui, mais aujourd'hui, le calendrier le plus simple, c'est celui du PSG, quelque part.
Oui,
quand vous regardez, le PSG, s'il est à son niveau, même un tout petit peu moins que son meilleur niveau, il gagne tous les matchs jusqu'à la fin de saison.
C'était Strasbourg. Hein.
Voilà, mais si Lille gagne tous ses matchs, c'est plié l'histoire aussi.
Alors, sauf que le jeu de Lille est vraiment un jeu minimaliste. C'est peut-être là aussi, vraiment.
C'est
service minimum.
C'est le service minimum. Je trouve que Galtier, et là, je trouve qu'il fait du travail exceptionnel. C'est-à-dire que je pense qu'il met en quintessence, en sur-régime, tous ses joueurs. Je pense qu'ils sont tous dans le rouge.
Enfin, il a des bons joueurs.
Hein. Il a quelques très, très bons joueurs, mais tu as aussi des joueurs. Maintenant, il y a son attaquant qui est blessé. Et donc, maintenant, Bourraca revient. Et tu sens quand même qu'à tous les matchs, tu as 2-3 mecs qui sont vraiment en dessous. Et c'est les autres qui compensent. C'est un vrai groupe. Mais ça va bien. Mais le jour où tu vas passer à travers et que tu en as 5-6 qui sont vraiment à travers...
Non, mais il reste que 6 matchs. Il a un super gardien.
Il a un gardien exceptionnel.
Renato Sanchez, c'est quand même au-dessus de la Ligue 1.
C'est un grand joueur.
C'est un niveau au-dessus de la Ligue 1.
Fonté, non, mais j'ai envie qu'on soit champion. Fonté, je parle défenseur parce que mon cœur est lillois, mais Fonté, je pense que ça va être compliqué.
Oui, mais là, vous me sortez des individualités. Mais
parce que Lille, ça défend très bien, en fait.
Oui, bien sûr, mais je peux me tromper, mais je n'ai jamais vu 11 joueurs à leur top niveau sur
en
un
même
seul
temps,
match.
Vous avez raison.
Il y a toujours eu.
C'est ce que je viens de vous dire. Il y a toujours à chaque match 2-3 mecs qui passent à côté. Et quand ils passent à côté, ils passent vraiment à côté, sauf qu'à Lille, ça se voit. C'est-à-dire que si tout d'un coup, je prends l'exemple de Benjamin André,
ça se voit tellement,
non, mais,
leader du championnat.
Je suis supporter, mais Benjamin André, qui est un joueur, moi je trouve qu'il est exceptionnel la saison qu'il fait avec Lille, mais si vous le perdez lui sur un match phare, Christian Olivier vient de dire tout à l'heure que Lille va jouer contre Lyon, ce jour-là, qui va être du rentre-dedans avec Paqueta dans le milieu de terrain, tu perds Benjamin André qui est dans un mauvais jour, c'est tout l'effectif qui va
ce qui est dur, c'est d'avoir perdu Jonathan David, en fait, parce que pour mettre des buts, lui, il est uniquement sur un seul registre, l'impact, le duel à l'ancienne avec le défenseur, l'animal contre, voilà. Alors que Jonathan David avait quand même plus de finesse dans son jeu. Donc c'est plus ça qui va marquer des buts à Lille pour les 6 dernières journées de championnat. J'ai l'impression que Wea, c'est quand même un remplaçant.
C'est pas mal.
Oui, mais c'est qu'un remplaçant.
Oui.
Donc, Yılmaz, il a qu'un seul registre. Qui va marquer des buts ?
Bon, c'est...
Oui. Il ne reste que 6 matchs. Ils avaient un test important à Metz. OK, sur la forme, ça n'a pas été exceptionnel et ils ne méritaient certainement pas de l'emporter. Mais ils l'emportent quand même. C'est comme si on nous dit, bah oui, le Bayern, ils ont eu 30 tirs. Bah oui, mais ils ont perdu.
Bon, c'est vrai.
Ils ont été gagnés un match. Les zones
mais
de
c'est
vérité,
toujours à l'arrache.
Les zones de vérité, c'est là où ça se joue.
Oui.
Maignan, exceptionnel. Fonte Botman, c'est très
fort. L'avance exceptionnelle aussi, ça fait partie du foot.
Ils ont quand même des remontées de balles, il y a une cohérence, il y a quand même quelque chose qui fait que sur 6 matchs, là, en plus, on le sent après la rencontre, les premières interviews de José Fonte, on sent qu'ils sont en train de commencer à y croire.
Ils le disent maintenant.
Et ouais, Galtier, c'est la fin de l'histoire aussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui soude tout le monde en ce moment.
Ils veulent gagner. Ouais.
C'est pas exclu qu'ils puissent aller
après,
au bout quand même.
Hein. Après, il y a aussi cette histoire de Galtier ne sera pas l'entraîneur de Lille la saison prochaine. On ne sait pas s'il ira à Lyon ou ailleurs.
C'est très nauséabond d'ailleurs.
Mais il ne sera pas l'entraîneur de Lille la saison prochaine. Il ne veut pas rester travailler notamment avec M. Iletan.
Il y a plus que ça.
Et il y a, le trou laissé par M. Lopez.
Alors voilà.
Et donc pour moi, c'est un club qui peut, sur ces six journées-là, ça peut venir polluer.
Voilà, exactement. Et Dominique Sévrac a parfaitement raison. Car au-delà des bons résultats de Lille qui place le club à la première place du championnat, classement provisoire effectivement, ça peut se jouer aussi en cette fin de championnat dans les coulisses. Il faut quand même rappeler, et vous allez me corriger si je dis une contre-vérité, notamment Stéphane Pauwels, mais vous tous autour de cette table, c'est qu'il y a une proposition de renégociation de salaire que les joueurs ont refusé. Donc, ils ont imposé, les dirigeants, de geler les primes. C'était la seule solution pour économiser de l'argent. On découvre, les chiffres sortent quand même. Il y aurait un déficit ou des pertes de l'ordre de 80 millions d'euros.
Mais ça, on le savait.
Attends. La DNCG, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle a envoyé un courrier à tous les clubs, et notamment au LOSC. Il va falloir maintenant recouvrir cet argent manquant. Mmh. Sinon, ça va faire le bonheur de Sébastien. Lille en Ligue 2 la saison prochaine, je plaisante. Mmh. Mais et le Crédit Agricole, qui est le sponsor du club et qui héberge les comptes bancaires, ont demandé des explications et des éclaircissements sur les fonds de Lille depuis que le nouvel investisseur est arrivé avec son nouveau président Olivier Létang, et ils n'ont pas ces réponses.
Et vous permettez une petite chose, Christian.
Non, pourquoi
c'est pas changer de sujet.
Non,
moi je pense que c'est exactement l'inverse de vous.
Non, Sébastien, pourquoi? Parce que tous les joueurs sont dans une incertitude totale.
Moi, je pense que c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'au contraire, les joueurs et le staff technique savent très bien ce qu'il se passe. Ils savent très bien qu'en juin, c'est terminé, que c'est la fin de l'histoire et qu'ils ont tout intérêt à être tous ensemble, tous soudés pour aller chercher un titre historique qui leur permettra à tous de rebondir.
De
leur
plus-value.
Mais juste,
je pense que c'est l'inverse. Je ne sais pas
s'ils seront champions, je pense qu'ils sont soudés.
Quand vous avez des garçons comme Maignan, Bamba, Ikoné, Chélik,
Christian, ils vont tous trouver des clubs.
Christian, c'est pas un garçon comme Fonté qui n'arrive pas, qui ne parvient pas ou qui ne veut pas.
Vous permettez une virgule
son contrat.
Philippe, vous permettez une virgule.
Stéphane Wells.
Il a raison, ce qu'il dit Sébastien. Les mecs, ils savent que de toute façon, ils vont quasiment se retrouver libres et ils vont pouvoir. En tout cas, ils vont tous trouver des clubs, ces joueurs-là. Je vais juste vous donner une information parce qu'on est sur RTL et c'est recoupé. Vous ne savez peut-être pas, mais M. Lopez a laissé donc des grosses casseroles. Ça, vous le savez. Mais des énormes casseroles. Hein. Et ben, il a repris le club de Moucron, club partenaire. C'était pas un partenariat Lille-Moucron. C'était un partenariat Lopez. La même chose continue. Moucron n'a pas eu sa licence cette semaine parce que M. Lopez n'a pas mis les garanties financières. Et il y a aussi maintenant, tout ce club risquerait de mourir aussi. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est le parallèle qui s'est fait avec Lille. Il y a tellement de casseroles qui ont été faites qu'à un moment, Christian Olivier a raison. C'est qu'à un moment, il y a une DNCG.
Mais lui, il s'appauvrit pas en revanche, vous inquiétez pas.
Ah bah mais ça fait trois ans que la DNCG, le club le plus endetté de France, c'est Lille.
Philippe, sauf
et après, il y a Marseille. Ce sont les deux clubs qui cumulent, je crois, la moitié de l'ensemble des dettes de la Ligue 1.
Tu as raison, sauf qu'ici, M. Létang qui a repris les rênes du club, qui est quand même pas un charlot, qui sait quand même compter, hein, si je peux me permettre.
Mais Monsieur Létang, entre guillemets, il n'est que le président du club.
Non, mais attendez, Philippe, laissez-moi finir.
Le tour de passe-passe financier, la revente du club, c'était tout simplement pour pouvoir manipuler des dettes et faire en sorte de gagner du temps. Mais c'est un tour de passe-passe financier, ce qui s'est passé, c'est pas autre chose.
Je ne suis pas d'accord. Laissez-moi finir. Il y a eu un passe-passe financier. Monsieur Létang est là aussi, croyez-moi, parce que j'ai quand même un peu mon réseau aussi. Ils ont retrouvé, comme on dit, des cadavres dans les placards. Et ça veut dire aussi que dans ces cadavres, la DNCG est au courant. Et les cadavres, c'est quoi?
Non.
Il y a d'autres nouveaux cadavres. Il y a des choses sur des transferts. Vous savez quand même que Victor Osimhen a été transféré. Pep, vous le savez bien comme moi. Et que dans tous ces montants-là, il y a des montants
mais
qui, à un moment.
Le sait, Stéphane.
Oui, mais sauf que maintenant, c'est en train de sortir clairement à la DNCG. Il y a des preuves maintenant.
Tout le monde sait qu'il y a eu des montants de commission.
Oui, mais il faut le prouver, c'est parce que.
Faramineux sur certains transferts. Et. Les gens qui sont venus à la tête du club le savaient parfaitement. Ou alors, pardon, ce sont des idiots finis. Et je ne pense pas que ce soient des idiots finis.
Sébastien, est-ce que les chiffres ont été donnés sur Osimhen, par exemple?
Non, mais les chiffres, précisément, non. Mais tout le monde sait que les chiffres sont faramineux, les commissions.
Parce que moi, ce que j'ai entendu, alors moi, ce n'est pas une information recoupée, mais ce que j'ai entendu, c'est que sur le transfert d'Osimhen de 70 millions d'euros, à peu près 80 pour Naples,
il y a 25 millions de commissions.
Il y a 7 millions qui sont rentrés dans les caisses de Lille.
Je voudrais qu'on soit soit prudent. Je voudrais qu'on soit prudent.
Vous imaginez tout le reste qui est parti ?
Parce que, voilà, je voudrais qu'on soit prudent parce que parfois.
Non. Il faut les... Monsieur Létang, il faut lui laisser cette.
Les transferts faramineux, les commissions d'agents, tout cela, effectivement, on peut s'en douter ou même les vérifier en consultant les dossiers de la DNCG, mais il n'y a, rien à l'heure qu'il est au moment où on parle.
Mais c'est pour ça que je fais confiance à
monsieur. On est d'accord. Mais je préfère quand même. Mais
personne ne dit que c'est illégal. Si vous vendez votre maison.
Mais qu'est-ce que vous avez après moi, Sébastien ?
Non, je vous aime. Si vous vendez votre maison. C'est parce que vous êtes susceptible. Mais
non, je m'entoure de garantie. J'ai pas envie d'aller au tribunal.
Mais
moi, je fais confiance
personne
à monsieur Létang.
Ici, n'a dit qu'il y avait quelque chose d'illégal. Si vous vendez votre maison. 1 million d'euros. Et vous avez envie de donner 500 000 à droite, à gauche, c'est votre problème. En commission, parce que des gens ont réussi à vous la vendre super bien, c'est votre problème. Mais les commissions ont été faramineuses. Après, est-ce qu'il y a eu des rétrocommissions? Ça, c'est autre chose. Mais personne ne l'a dit sur ce plateau.
Juste pour être juste et aller à l'encontre de mon ami Philippe, c'est que je pense, franchement, Marc, monsieur Létang fait le travail. Non.
Et je pense qu'il ne fait pas le travail.
Non, il fait le travail. Et lui, justement.
Je dis qu'il est venu en connaissance de cause.
Peut-être, mais il est là aussi pour mettre de l'ordre et, à mon avis, donner des vrais chiffres à la DNCG.
En tout cas, ce qui est certain, ce qui est factuel, c'est que si on regarde les ventes de joueurs depuis maintenant 3-4 ans, Lille est le club européen qui a le plus et le mieux vendu. Je crois qu'on est à plus de 400 millions. Théoriquement, on est à plus de 400 millions de recettes ventes. Et à côté de cela, on a un club qui cumule, je crois, 150
millions. Mais ils se sont tous gavés.
200 millions
d'euros de recettes.
Alors, qu'est-ce qui se passe ?
Le mot de la fin de Nick Stéphane.
Ça se passe très bien avec monsieur Létang, pas vraiment. Entre Létang et Galtier.
Ça, j'ai pas dit. Mais il est là pour mettre de l'ordre. C'est un financier administratif.
Stéphane, c'est déjà le feu entre Galtier et Létang.
Mais excuse-moi, Dominique, tu connais bien Galtier.
Il y en a un des deux qui veut plus travailler avec l'autre.
Dominique, tu viens du milieu du foot, tu connais bien, t'es un grand journaliste. Quand Galtier. Quand Galtier, il veut continuer, il veut des garanties sportives avec les mêmes joueurs, avec les mêmes salaires. Et Létang, il lui dit, je peux pas te le donner.
Bon, Galtier va quitter le club.
Mais parce qu'il peut pas avoir les mêmes garanties de joueurs.
Il a un an de contrat.
C'est normal qu'ils s'entendent pas. Dominique, c'est normal qu'ils s'entendent pas, monsieur Létang et Galtier. Galtier veut des choses que l'autre pas lui donner.
Bon, néanmoins, si je voulais réchauffer un peu plus le débat,
allez, le
150 millions de budget, Lille, leader du championnat, voilà. Le Paris Saint-Germain, 600 millions.
Ah ben, voilà.
Leicester, je vous ai dit tout à l'heure, Leicester, 140 millions de budget, et à l'époque, il y avait Manchester à 550, le United, le City, Arsenal à 450, allez, Liverpool.
C'est pour vous agacer un peu.
Et heureusement, c'est quand même heureusement que le sport nous offre des saisons.
Bien sûr, mais j'espère que là, pour le coup, les coulisses ne prendront pas le pas sur le sport, comme l'a démontré.
Je pense
qu'ils sont soudés.
De foot, il tire le meilleur de son équipe.
La quintessence.
Mais donc c'est un super entraîneur.
La quintessence. Les messages sur les réseaux sociaux et notamment sur le compte @RTLFoot, Baptiste Durieux.
On va revenir un peu aux sportifs sur Lille. Est-ce que Lille peut être champion ? Message d'Antoine. Bien sûr que c'est une évidence. Lille est sur la continuité des deux dernières saisons. Super équipe, super jeu, super coach. Premier avec une avance significative. Pas l'ombre d'un doute pour moi pour le titre de champion. Message d'Hugo, qui apparemment vient du sud de la France. Monaco est le champion du jeu, de l'enthousiasme, du football plaisir. C'est mon champion de cœur et leur série incroyable, je ne la vois pas s'arrêter. Danger pour Paris Elite de ne pas se prendre un rocher dans la tête. Petit jeu de mots, j'espère que vous l'avez. Message de Tristan, le match à Metz, c'est comme le PSG à Munich, ça ne va pas marcher à chaque fois. Lille sera européen, mais certainement pas champion pour le moment.
Merci Baptiste.
Moi, je l'avais pas.
Moi non plus.
Je n'avais pas le rocher.
Ah, le rocher.
Ah oui.
Bon, les amis, 19h20, si on fait le match pour tous ceux qui nous rejoindraient et qui découvriraient, ils sont peu nombreux à mon avis, ils sont déjà là depuis 20 ans, 20e anniversaire quand même, hein. On pense à l'ami Eugène Saccomano. On va parler de l'UEFA, du prochain championnat d'Europe des Nations. Moi, j'ai halluciné cette semaine en découvrant qu'il y avait une quasi mise en demeure de l'UEFA demander aux pays organisateurs et donc aux villes accueillantes de trouver du public et d'organiser ces matchs de l'UEFA avec du public, sous peine d'aller voir ailleurs, et donc les pays réfractaires pourraient, du même coup, eh bien, être privés de leur match en juin et juillet prochain. D'où cette question. Le championnat d'Europe des Nations avec un public imposé par les organisateurs, sinon pas de match pour les pays réfractaires. Mais alors, l'UEFA est-elle plus forte que les gouvernements ?
Non, mais c'est un rapport de force que l'UEFA essaye d'établir. Moi, il y a tellement de choses qui me choquent davantage que cela dans le football que... J'essaye de comprendre
comment
votre agacement.
Sébastien, comment l'UEFA peut...
C'est un rapport de force. L'UEFA soupçonnait certaines villes, et donc peut-être certains gouvernements, de ne pas essayer de faire les efforts pour accueillir du public. Voilà, ils soupçonnaient certaines villes. On parle de Bilbao, on parle de Dublin, ça on le sait. Il y avait une troisième ville notamment également. Donc ils ont essayé de faire pression là-dessus. Voilà, après l'UEFA est l'organisateur. Il a le droit quelque part de vouloir faire comme il l'entend.
Mais il y a des façons de le dire quand même. La fermeture totale des tribunes n'est pas une option sur la table.
Moi, je suis pas d'accord avec toi, Sébastien. J'ai suivi en 2001 l'attribution des JO de 2008 et le CIO voulait négocier avec la France. Il y avait donc Marie-Georges Buffet qui avait fait une loi anti-dopage et qui demandait au gouvernement français, vous n'auriez pas annulé votre loi, vous auriez les JO de 2008 beaucoup plus simplement. Bon, finalement, ils sont allés à Pékin.
C'est pas tout à fait pareil.
L'extraterritorialité, c'est ce que demande le CIO, l'UEFA, la FIFA, au mépris des lois nationales. Nous, on vient avec notre Barnum, notre organisation d'Euro, de Coupe du Monde, et on s'en fout de savoir si chez vous, vous pouvez accueillir des gens, si vos hôpitaux sont ouverts, pas ouverts, si vous êtes en souffrance, si vos cas de Covid ont explosé. Nous, on veut qu'il y ait du public. C'est mépriser les pays. C'est genre, ma compétition est plus importante que ton pays.
Mais il faut savoir que le CIO, le Comité international olympique, est un État à lui tout seul. Hein.
C'est ce que je dis.
Et Thomas Barr est un chef d'État.
Alors, je vais vous éviter d'avoir un procès, mais ce ne sont pas des mafias, mais ils ont un comportement un peu mafieux.
Alors, effectivement, mettez-le entre guillemets.
Je comprends ce que tu dis, Dominique, mais déjà, je trouve que mettre en rapport, avoir du public dans des stades, et des lois antidopage, ça me paraît excessif. Il y a un truc scandaleux et une autre chose sur laquelle on peut discuter. Moi, encore une fois, je pense que c'est un rapport de force que l'UEFA essaye d'établir et c'est tout. Et que fondamentalement, ils ne pourront pas imposer quoi que ce soit à un État.
Ce rapport de force est hors sujet actuellement.
Mais ce qui est obscène, c'est le football, messieurs. Ce qui est obscène, c'est l'argent qui dégouline. Ça, c'est obscène. Vouloir du public dans les stades, c'est pas obscène.
Par les temps qui courent avec la pandémie qui n'est pas terminée, d'installer des spectateurs dans les tribunes.
Mes amis,
degré ou de force.
Mes amis, mes amis.
Non,
mais juste laissez-moi finir.
Je ne suis pas ton ami.
Très bien. Patron. Si le 10 juin.
Oui.
L'État, j'en sais rien, l'Angleterre, l'Italie, dit ben, il n'y aura pas de public dans les stades, mais il n'y aura pas de public dans les stades. Donc c'est juste un rapport de force.
Ça peut se passer comme ça, Sébastien.
Mais oui,
quelles villes sont concernées ?
Donc c'est pas grave. Il y a des choses tellement plus graves.
J'écoutais l'enquête de Nicolas Georgerot ce matin sur RTL. Quelles villes sont concernées ? Un homme de talent. Rome, pour le match d'ouverture. Pour l'instant, Rome n'a pas répondu et ne souhaite pas avoir public. Munich également, où se jouera l'Allemagne-France, phase de groupe, Bilbao et Dublin. Bilbao et Dublin, où d'ailleurs l'équipe de France pourrait jouer un huitième de finale. C'est quand même extrêmement tendu.
J'ai beaucoup écouté et je suis assez d'accord de beaucoup de choses, sauf qu'il y a une indécence totale, quoi. Et on va être très basique pour nos auditeurs.
Est indécent,
non, mais en dehors de ça, du pognon et tout ça, on est d'accord.
Stéphane Pauwels.
On parle bien de santé, on parle de tout ça. On voit la situation que nous nous trouvons encore maintenant, même dans nos stades à nous. Comment est-ce possible qu'à un moment l'UEFA se comporte comme ça, une espèce de dictature en voulant diriger des gouvernements? C'est des rapports de force qui ne doivent pas exister, comme la FIFA se comporte d'ailleurs très malhonnête sur l'histoire de ce qui se passe au Qatar, où on essaye de minimiser. Ils ont comme ça ces instances-là qui sont pétées de thunes, l'impression qu'ils ont le pouvoir et qu'ils peuvent tout décider. Eh bien non, ils ne vont pas décider, excusez-moi de m'énerver, de la santé des gens. C'est pas eux qui décident,
mais
c'est les gouvernements.
Mais
ils essayent de faire décider.
Pourquoi c'est un rapport de force, Philippe?
Qu'ils soupçonnent simplement que certains pays et certains organisateurs n'essayent même pas. Et eux, de la même manière que les gens du cinéma, que les gens qui font des festivals, qui organisent des festivals, essayent d'installer un rapport de force avec le gouvernement pour accueillir du public, et ben de la même manière, l'UEFA le fait. Je ne comprends pas votre agacement. Quand il y a tant de choses scandaleuses dans le monde du football.
Philippe Sanfourche.
Ce rapport de force, il existe dans tous les pays, il est politique. On le sait qu'en Allemagne, il y a la question des Länder, qu'en ce moment, à Munich, c'est compliqué avec le pouvoir fédéral. Et évidemment que, in fine, ce seront les gouvernements qui auront le dernier mot. Bien entendu, l'UEFA joue sa partie. C'est aussi, comme souvent, une question financière, cette affaire-là. C'est-à-dire que l'UEFA met la pression en rappelant à chaque fois le cahier des charges et en gonflant justement les volontés pour que ce soit plutôt les villes qui se désistent du fait qu'elle ne puisse pas se mettre dans les clous du cahier des charges. Parce que l'UEFA ne prendra jamais la décision de dire « Vous, à Munich, vous ne pouvez pas le faire, donc vous n'allez pas y aller. » Parce que derrière, ils sont attaqués. Et derrière, ils perdront énormément d'argent parce qu'il y a eu des infrastructures, il y a eu des projets économiques qui ont été engagés en lien avec l'euro. Et donc, l'UEFA ne se mettra jamais dans cette situation-là. Donc, c'est un jeu politique. Philippe, c'est effectivement, vu de l'extérieur,
pas très joli à voir. Plus intelligent,
c'est comme ça.
Au début d'année, de dire « On rapatrie l'euro sur un seul pays ». Ça n'aurait pas été plus
Dominique.
Mais c'est complexe.
Si tu fais ça, tu as toutes les villes qui avaient obtenu le truc qui t'attaquent.
Mais
on parle pas de ça. Il est obligé de les rembourser.
Il n'est pas encore tout à fait exclu qu'on le fasse. Il n'est pas encore exclu tout à fait.
Tu as raison, Dominique.
Il ne se passe pas un truc un peu incroyable sur Terre en ce moment.
C'est incroyable.
Le virus, ça oblige
pas. Prends les choses à l'envers. C'est pas parce que la Russie, par exemple, bon, ils ont des matchs à Saint-Pétersbourg. La Russie, ça fait 6 mois qu'ils ont le vaccin, qu'ils ont vacciné tout le monde, qu'il n'y a aucun problème. Donc tu vas empêcher le public russe d'aller au stade parce que les autres ne peuvent pas y aller.
Allons tout le monde en Russie, c'est ce qu'ils viennent te dire. Alors, choisissons un pays qui n'est pas contaminé.
Je vous donne les dernières informations donc, de Georges Rowe ce matin. Hein. 100% de public pour l'instant, il pourrait y avoir 100% de public à Budapest, 50% à Saint-Pétersbourg et à Bakou, 25% à Londres, Amsterdam, Copenhague, Glasgow, Bucarest. Et voilà pour l'instant où nous en sommes. Et le verdict devrait tomber le 20 avril.
Du très grand n'importe quoi.
Lors d'un
comité. C'est du très très grand n'importe quoi. Choisissons.
Non, mais j'entends également les arguments de Tarago.
C'est des arguments de pognon.
Les rapports de force.
C'est des rapports. Mais à un moment donné, on parle bien d'argent. C'est ça l'histoire. Hein. C'est une question de pognon. Comme dit Philippe tout à l'heure, comme il y a des pays. Ah donc le pays, on va lui dire tu joues plus maintenant là et eux ils vont faire la gueule. Mais on s'en fout. Hein. On parle de santé. À un moment, s'il faut protéger tout le monde, jouons dans un pays. Cette idée d'aller jouer partout. Depuis que ce Covid, on n'en sort pas et qu'il faut que tout le monde soit vacciné. Ça fait un an que l'euro a été annulé.
Ce sont les premiers à le déplorer.
Mais on n'aurait pas pu prendre la décision de choisir un pays.
Ils ont récupéré le bébé.
L'organisation 12 villes 12 Europe, c'était...
C'était la volonté de Michel.
C'est une situation grave.
Ils ont récupéré le bébé, ils le déplorent. Jamais ils ne le referont. Mais aujourd'hui, ils sont tributaires de ce truc-là. Et s'ils le dénoncent, c'est à eux de payer.
On fera ça en 2028. On fera ça sur 12 villes en 2028.
Quand on fera ça sur la santé des gens. Donc le pognon gagne contre la santé des gens.
Je voudrais pas vous voir la tête d'entreprise.
Le pognon gagne contre la santé des gens. Bah si, c'est sérieux.
La publicité.
Hein, soyez jamais chef d'entreprise.
19h29.
J'ai pas envie.
19h29. La publicité. Maintenant, bientôt 19h30. La publicité, les messages sur les réseaux sociaux et Real Madrid Barcelone. Un classico champêtre, selon vous? Vous répondrez à cette question.
On refait le match sur RTL.
RTL, on refait le match. Christian Olivier.
19h30, on refait le match jusqu'à 20h. À 20h, Giovanni Castaldi, Xavier Domergue, Raymond Abou et Quentin Vasselin.
Quelle équipe. Des hommes de talent.
3 heures de RTL Foot, effectivement, pour notamment et pas seulement l'intégralité de Marseille-Montpellier. Mais ça se joue à la Mosson. Montpellier-Marseille.
Magnifique. 34 comme
les roues. Et je vous rappelle le décryptage. Je vous rappelle les scores de cet après-midi. Le PSG est allé gagner à Strasbourg 4-1. On décrypte de ce match, bien évidemment. Et en Ligue 2, le PFC 3 ont fait match nul, 1-0. On a parlé du Paris Saint-Germain qui choisirait ou pas ses matchs, mesdames, messieurs. On a parlé de Lille qui pourrait être champion. Je vous ai demandé si ça vous semblait être une évidence. Vous y avez répondu. On a parlé de l'UEFA et de cette façon que l'UEFA a de tenter de comment dire,
de forcer la main.
Non, c'est un peu trop dur, c'est de convaincre. Voilà, de convaincre.
C'est
simple,
hein.
De convaincre.
Très politique, ça. Comme...
Oui, de convaincre. Mais j'aurais dû faire.
On vous a convaincu.
Real Madrid-Barcelone ce soir. Alors là aussi, pas de public, sur un terrain annexe. Est-ce que ça ne ressemble pas à un classico champêtre, ce Real Madrid-Barcelone? Il faut savoir que Bernabéu est en travaux. Que le stade, c'est le stade d'entraînement, stade annexe, l'équipe réserve, mais stade d'entraînement. Hein. Klopp, l'entraîneur de Liverpool, l'a souligné, stigmatisé cette semaine. Est-ce que ça ne ressemble pas à un classico champêtre quoi, sur un...
C'est rigolo de voir Messi dans ce petit stade. Moi, j'ai regardé le Real Madrid-Liverpool cette semaine. Ça n'empêche pas de voir du foot. Hein.
Oui.
Allez dire, Christian Olivier, un vrai abonné du Barça ou un vrai abonné du Real, si c'est un petit match champêtre, vous allez vous faire recevoir. Je connais des communautés qui se voient ce soir devant des télévisions pour regarder ce match, des supporters du Barça avec les bonnets et les écharpes. Pour eux, ce n'est plus des PSG OM comme avant ou des Anderlecht standard en Belgique comme avant. Non, ça reste un vrai
qu'il
match.
Il n'y a pas d'enjeu, on va y revenir. Il y a un enjeu très important
bien
et peut-être
oui.
d'ailleurs.
Non, mais même il y a un enjeu d'image. Ça reste celui qui bat, qui gagne aujourd'hui, se considère comme le plus grand club espagnol.
Oui, ça ils c'est
sont,
tous les ans.
Ils sont encore, tous les ans. Donc c'est pas champagne. Donc on est dans le même état d'esprit.
Vous avez compris ma question volontairement provocatrice, voilà.
Bien sûr, non, mais il se trouve que bon, le hasard a pas bien fait les choses, c'est pas le terme. Mais il se trouve qu'il y avait ce projet de rénovation du stade et que la situation actuelle et les huis clos accompagnaient ce qui aurait été une complication pour le Real, c'est-à-dire de devoir faire les travaux en même temps, comme c'est toujours le cas dans ces cas-là. Là, je trouve que justement, par rapport au débat qu'on avait il y a 5 minutes, il y a une forme justement de décence. C'est-à-dire que moi, ces stades de 80 000 places à huis clos, froid, ce stade de Munich qu'on a vu cette semaine, c'est horrible. C'est-à-dire que ça accentue le côté. Et ben là,
je suis d'accord.
Il joue sur un terrain qui est parfait. Où est le problème ? Je trouve que par rapport à la situation qu'on vit actuellement, quelque part, c'est une forme de décence et ça n'enlève rien.
Ils l'ont pas fait pour ça. Non. Ils l'ont pas fait pour
on
ça.
On est bien d'accord.
Parce qu'ils dépensent 800 millions pour rénover le stade. Mais quelque part, ils gagnent un an. C'est-à-dire qu'ils espéraient arriver dans leur nouveau stade en 2023. Et là, ils pourraient entrer dans le Bernabéu rénové en 2022. Donc, ils ont été intelligents, le Real Madrid. Ça va de soi. Mais ils sont très gagnants dans cette histoire.
Je pense que, vraiment, parce que là, votre question est là pour qu'on réagisse. Mais je pense que ça reste un grand match. Je pense que pour l'Espagne, que ce soit les médias, les supporters, les fans, ça reste le match entre eux.
Justement.
Et je rejoins Philippe, ce petit stade crée même une espèce d'ambiance particulière, même si c'est qu'au cours de circonstances. Moi, je suis assez d'accord avec Philippe. Je pense même que ça va être un peu plus chaud que d'hab.
Je pensais justement qu'avec cette question presque hors sujet, vous alliez m'envoyer bouler et me parler immédiatement
on n'ose plus,
des enjeux
sportifs. On n'ose plus, on se fait gueuler.
Sébastien Tarrago. Donc, j'ai conversé cette semaine avec Mathias Valton, on a fait le point et effectivement, il faut savoir qu'on est à 9 journées de la fin de la Liga. L'Atlético Madrid est en chute libre.
Ils sont quand même en tête.
Ils sont toujours leaders.
Avec un point d'avance.
Mais ils se déplacent demain sur la pelouse du Betis Séville, cinquième. Ils pourraient bien se faire taper au Betis.
Attendez, c'est pour ça, j'y viens. Un point d'avance simplement sur Barcelone. 3 points d'avance seulement sur le Real. Barcelone est invaincu depuis 4 mois, 6 victoires consécutives, et le Real invaincu depuis 2 mois, 5 victoires consécutives.
C'est chaud. Hein.
C'est dans ce stade champêtre que peut se jouer le titre ce soir.
Mais c'est comme ça.
Le vainqueur prend une option sur le titre. Sauf que, encore une fois, l'Atlético de Madrid est toujours leader et que l'un des deux clubs concernés, le Real, a plutôt pris une option pour une demi-finale de Ligue des Champions, ce qui va compliquer, à mon avis, la chose. Quand le Real, à mon avis, sera en demi-finale de Ligue des Champions, peut-être que le Real va gagner ce soir. Est-ce que le Real pourra tout faire ? Il y a des cas que. Il y a une donnée qu'on n'a pas soumise à la sagacité des auditeurs et à la vôtre. Sur Lille sera-t-il champion ? Mais si, par exemple, dans une semaine, il y a 15 cas de Covid à Lille, comment ils vont faire, Lille ? Donc ça, la fin de saison peut être perturbée par des facteurs qu'on ne connaît pas.
Après, celui qui gagne ce soir ne sera peut-être pas champion, mais celui qui perd, s'il y a un perdant. Je pense que c'est fini pour
lui. Il est mal. Mais par contre, il y a un point de vue qu'on n'a pas parlé, c'est Zinedine Zidane. C'est parce que j'ai encore vu des papiers cette semaine.
Pour répondre à Tarrago, plus le Real que Barcelone.
Zinedine Zidane, où on nous annonce depuis 6 mois que c'est fini, que c'est sa dernière saison, que c'est une catastrophe. Il joue qualifié en Champions League et il sera certainement. Et je pense qu'au fond de lui-même, son groupe a peut-être envie aussi d'être champion. Et donc, on ne faut pas minimiser. On a l'impression que Zidane, si on écoutait les gens, les observateurs, même en Espagne, le Real... Ah si, moi, il y avait, en Espagne, des gens disaient, mais le Real, cette année, c'est mort. Zidane va partir, ils sont moins bons. Ben non, je ne pense pas. Je pense que Zidane, il veut faire le doublé.
Ah ben, encore heureux. Même le quadruplé, il aurait voulu faire.
Mais je veux dire, je pense que ce soir, il peut taper très fort.
Cette saison qui est très particulière... prouve que rien n'était fini, mais que le Real Madrid, pour autant, était en très grande difficulté, de la même manière que le FC Barcelone, il y a encore 2 mois, 3 mois, était mais catastrophique. Simplement, voilà, l'Atlético Madrid s'écroule. L'Atlético avait 10 points d'avance, même un peu plus, 11.
Mais sans public, mais
il y a aussi
tout
des
ça est très particulier.
De qualité, que ce soit Zidane, que ce soit les équipes de Koeman qui ont travaillé, et ils ont aussi quand même des effectifs qui leur permettent de le faire. Mais moi, j'ai été émerveillé par le match du Real face à Liverpool cette semaine, avec des joueurs qui ont été cramés comme Modric, comme Kroos, le toucher de balle, inspirations, incroyable. La vision du jeu. Et ça, c'est effectivement le talent de ces joueurs-là. Mais c'est aussi la manière dont Zinedine Zidane a su les conserver sous son aile, justement continuer de leur donner sa confiance, de leur accorder sa confiance.
Dans une saison
là où tout le monde est en train de les descendre. Et je trouve qu'il n'est jamais meilleur que lorsqu'il est acculé comme
dans
ça.
Les cordes, ouais.
Et en plus, Zinedine Zidane avait été déclaré positif le matin.
C'est
même.
Fantastique. Varane, sans Eden Hazard, il ne s'en sort pas depuis des mois. Il est toujours là. Hein,
il y a eu un coup dur avec le cas positif de Varane. C'est Militao qui jouait. Il trouve toujours des... Benzema, il a pas marqué, mais il a fait, je trouve, un match dans la
mais
justesse
tout à fait.
Technique incroyable.
Il
a
fait grandeur.
Mais c'est fantastique.
Et quand on arrive dans ces matchs-là, à cette période de l'année, c'est là où tu sens le maillot du Real. Et ben, il est un peu plus grand. Zidane est un peu plus fort. Et le Real redevient le plus grand club du monde. Donc plus on avance, et plus
un petit bémol sur l'institution du Real, parce qu'il a été secoué en interne également, Benzema.
Zidane, c'est des petits messages de Florentino Pérez.
Institution, ça veut pas dire que rien ne se passe. Ouais, c'est comme quand on dit le Bayern est une institution, quand on voit ce qui se passe en ce moment entre Flick et Salih Adamou.
C'est
la vie d'un club. On sait que Hansi Flick va partir. Hein. Oui. C'est là encore, c'est aussi l'histoire comme à Lille d'un entraîneur qui sera plus sur le banc du Bayern.
C'est compliqué.
Qui sera plutôt sur le banc de la sélection. En tout cas, c'est le choix de la fédération allemande. Peut-être que lui n'a pas envie, mais...
Mais bon. Si Paris se retrouve en finale contre une de ces grandes équipes-là, elle aura toujours affaire en face d'elle, je parle du Paris Saint-Germain, elle aura en face d'elle des équipes de grande expérience et qui seront même peut-être malades avec des conflits en interne dangereuses pour pouvoir gagner la Champions League. Je veux bien mettre une pièce sur le Real, moi.
Mais Koeman, il a souffert.
Il a replacé Dembélé. Dembélé marche sur l'eau.
C'est une énorme réussite. Le match aller contre le Paris Saint-Germain a marqué un tournant dans la saison du FC Barcelone, même si son précédent match en championnat a été médiocre, sur un but de Dembélé, alors toute fin de rencontre pour la victoire du Barça, mais le match aller contre le PSG, oui, a été un tournant. Après ce match-là, Ronald Koeman a décidé de changer de système, de passer à 3 derrière, avec surtout le jeu pour favoriser le jeu des latéraux Dest et Jordi Alba sur les côtés, et Dembélé est devenu attaquant. Il est exceptionnel dans les appels, et je sais qu'il y a certains qui considèrent que ce n'est qu'un garçon qui peut jouer sur les côtés. Il est fantastique dans l'axe.
Là, sur les 4 derniers matchs, 3 buts.
Le match retour au Parc des Princes, le travail des 3, Messi, Griezmann et Dembélé, c'était absolument merveilleux. Mais merveilleux d'occupation du terrain et de proposition.
Il lui a manqué un peu d'efficacité quand même à Ousmane.
Comment ?
Il lui manque un petit peu d'efficacité.
Mais oui, mais c'est son problème.
Sinon,
ce serait
le jour où il aura ça.
Phénoménal. Mais Griezmann, dans tout cela, est quand même toujours un petit peu en difficulté. Toujours. Il est quand on voit tous les matchs du Barça, on continue à voir un Griezmann qui, parfois, court ici et là, essaye d'avoir le ballon et ne l'a pas toujours et pas souvent.
Quand ils étaient malades, il était quand même là.
Mais pas tant que ça. Il a marqué 3 buts contre Grenade en coupe. Bon, ok.
Vous savez qu'il a 8 buts en championnat, Griezmann.
Mais oui, c'est une catastrophe.
Vous savez qu'il y a toujours avant une compétition la trouvaille. C'est un mot à la mode. La trouvaille de l'entraîneur ou du sélectionneur. Je me pose la question. Elle n'était pas prévue. Alors brute de l'écoffrage. La trouvaille, ce serait pas Dembélé avant-centre de pointe là pour le coup de Didier Deschamps.
Il faut qu'il soit deux. Deschamps. Mais pour moi, il y aurait un coup à faire avec Griezmann en soutien de deux attaquants.
Mbappé.
Il veut jouer là. C'est l'un de tes meilleurs joueurs. Mets-le. Terminé. On n'en parle plus. Arrêtons avec ces débats.
De chipoter.
Soit Dembélé, soit Giroud, selon les matchs.
Mais il ne le fera pas parce qu'il y a aussi l'expérience du début de la Coupe du Monde. Il faut quand même se souvenir qu'il y avait quelque chose de ça dans son projet et qu'ils avaient raté leur match.
Oui,
donc derrière
un match contre l'Australie.
Une compétition où le moindre faux pas
c'était
peut
plus
être
4-3-3 qu'un...
Il jouait pas à deux dans l'axe.
On est d'accord. Mais il y avait quand même l'idée d'associer ces joueurs-là. Et après, il vous expliquera que c'est l'animation et que ce n'est pas le schéma.
Dominique Sévrac, vous savez ce qu'on me disait Pascal Pro.
Un homme de talent, là encore.
Pas de 4-3-3 dans On refait le match. Les auditeurs ne savent pas ce qu'est un 4-3-3.
Non, mais ça, c'est parce que Pascal
Pro méprise
les gens.
Et j'aurai droit à la remarque lundi matin.
Il nous écoute ou pas ?
Lundi matin, vers environ 11h, Pascal vient nous dire bonjour, Philippe, un peu témoigné au service des sports.
Il dit bonjour maintenant,
en plus ? Non.
Il est adorable, Pascal. Mais je plaisante, il le sait, Pascal.
Mais les auditeurs, après, peuvent se dire que...
Vous direz que moi, je ne comprends pas toujours ces émissions, donc ça ira aussi.
Moi, je l'aimais beaucoup dans...
Tout ça, bon, alors donc le 4-3-3, là, on va avoir droit à la remarque lundi matin, 11h, hein, le 4-3-3.
Alors c'est quand on joue avec 3 attaquants devant.
Et Christian, je t'en supplie, le 4-3-3. C'est pas possible. Ce n'est pas possible.
C'est parce que lui, il est resté au 4-4-2 du Foot Club Nantais.
Allez,
c'est pour ça,
19h42, minutes, une page de publicité, les amis.
On le salue quand même,
Pascal. Oui, les messages, me dit Damien à la réalisation. Les nombreux messages sur le compte @RTLFoot. Avec Baptiste Durieux.
Sur ce classico champêtre, message de Simon. Ce classico est champêtre depuis que Ronaldo a quitté le Real Madrid, tout simplement. Axel nous dit un Bernabéu vide ou un centre d'entraînement. Mais en fait, la pelouse est toujours de très bonne qualité. L'enjeu ne change pas. Les joueurs sont les mêmes. Je trouve ça même plutôt intéressant de profiter de l'absence du public pour voir des Lionel Messi, par exemple, dans des petits stades. Et Ryan nous dit, tu peux faire un Real Barça sur un champ de patates ou encore pire, au stade Charletti. Ça fait plaisir à Sébastien Perrago. Ouais. Rien ne pourra entraver la rivalité et les enjeux énormes de ce match. Et une petite info sportive, Antoine Griezmann est sur le banc ce soir pour le match face au Real Madrid.
Merci pour l'info. Charletti, Messi.
Stade horrible. Mais je vous rappelle quand même que donc le Paris FC était bien cinquième avant la journée. Il se trouve qu'il y a des matchs qui vont débuter.
Il lâche rien.
Et vous savez, où est le centre d'entraînement de... J'aimerais bien que... Est-ce que mes camarades savent où est le centre d'entraînement du Paris FC? Non, mais je sais pas.
Non, mais attends.
Et ils savent ou pas?
Deux choses. Le Paris FC était cinquième et quatrième maintenant au classement provisoire. C'est entendu.
Bah oui, ils ont un match de plus.
Le centre d'entraînement se trouve.
Et ils savent pas, on c'est à Orly.
Ah
oui, oui.
Mais Orly,
et après vous essayez de m'humilier sur la Ligue 2. Non, alors que moi c'est la Ligue 1 que je ne connais pas.
Je le savais Orly, hein, franchement. Non, je te jure que je savais que
je sais,
Orly.
Je sais.
Mais vous connaissez bien la Ligue 2. Je n'ai pas visité les installations.
Et moi si, j'ai eu ce plaisir.
Orly le dimanche, avec ou sans Beko.
Ah.
Tonton.
Ça, voilà.
Un peu de culture.
Pour revenir à
un peu de hauteur.
Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les réseaux sociaux, on fait la publicité. Derrière la publicité, les tirs au but. Ils attendaient le coup de sifflet.
Il y aura la Ligue 2 ou pas?
Et allez, il y aura une question Ligue 2, bien sûr.
C'est vrai qu'on n'a pas passé, beaucoup parlé. Donc c'est
allez, c'est parti, mon Kiki Mbappé.
RTL. On refait le match. Christian Olivier sur RTL. On refait le match.
Alors, si vous me le permettez, petite entorse au règlement. Avec Sébastien Tarago, toujours, Stéphane Poels, Dominique Séverac et Philippe Sanfourche. Avant même les tirs au but, ou selon la formule consacrée et inventée, copyright, par Gilles Verdez, les plus faibles sont éliminés au fur et à mesure. Un micro-débat quand même, avant les tirs au but. Un micro-débat, je profite d'ailleurs de la présence de Stéphane Poels. Depuis environ 3 semaines, tout le Benelux en parle. Alors le Benelux, c'est la Belgique, Pays-Bas, le Luxembourg, tout le Benelux en parle.
C'est plus compliqué que 4-3. Hein.
La réunification du championnat belge avec le championnat néerlandais.
Vous avez décidé de m'énerver, je vais essayer d'être court pour ne pas être trop long.
Et je le dis aux auditeurs, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Je voulais l'inclure dans les tirs au but, mais ça mérite un micro-débat.
Pour que vous sachiez, ça fait 20 ans qu'ils en parlent. Ça fait 20 ans qu'ils font voter les clubs chaque année, les présidents des clubs, pour cela, et que 20 ans, il y a du lobby qui est fait par les plus grands, ce qui est logique, puisque Bruges va rentrer en bourse pour la première fois. Bruges, qui est le plus grand club belge et qui préfère jouer contre l'Ajax que jouer contre Moucron ou Westerlo. En deux mots, ce qu'ils ont envie de faire, c'est de garder 10 clubs du Pays-Bas et 8 clubs belges et peut-être même 2 du Luxembourg. Mais imaginez le nivellement vers le bas, parce qu'il va falloir faire des choix. Et donc, il y a des clubs belges qui vont se retrouver complètement en deuxième division. Et donc, ça veut dire que, pensez aussi aux jeunes, aux supporters, tout le monde va jouer donc en deuxième division. Vous allez demander à un supporter de Moucron, pour que nos auditeurs comprennent, Moucron, c'est à côté de Lille, la frontière, d'aller jouer à De Graafschap, au fin fond d'Erenveen le dimanche après-midi. Donc il y a de la sécurité, il y a des supporters, ça c'est nul. Par contre, ce qui est très nul, c'est vraiment le nivellement pour le bas, parce que imaginez bien que les bons joueurs vont tous partir où dans les bons clubs hollandais, ou dans les clubs belges. Et quand je dis les grands clubs belges, vous savez, Anderlecht, chercher où ils sont en Europa League, ils ne sont plus là. Il n'y a plus que Bruges qui joue au top niveau. Donc je pense que la vraie solution pour la Belgique, c'est de revenir à ce qu'on fait en France, 3 descendants, 3 montants, enfin refaire.
Ah, nous, c'est 2. Hein.
Non, mais 2, mais revenir à des bases normales. On est dans des play-offs qui ne fonctionnent pas.
Bon, c'est une mauvaise idée.
C'est une très mauvaise idée. Juste que pour que vous sachiez, vous compreniez bien le championnat belge.
Parce que j'ai du mal pour l'instant.
Il reste 2 matchs. Mmh. Il reste 2 matchs. Dans 2 matchs, les 4 premiers vont jouer l'un contre l'autre. Mmh. Du 4e au 8e vont jouer l'un contre l'autre. Tarago, parce qu'il n'écoute pas les
mots. Vous savez ce que dit Tarago, parce que je lis sur les lèvres.
On s'en fout.
Non, on s'en fout. Pour m'amuser, j'ai dit à mes camarades qui sont en face de moi, j'ai dit on s'en fout, non?
Et il parle de l'arrogance de Pascal Pro. Pro. Hein. C'est ce monsieur qui parle de l'arrogance de Pascal Pro.
Hein. Mais non, ce que ça raconte, c'est non. Que c'est une envie de Super League à l'échelle du Benelux. Et puisque la Super League, c'est l'épouvantail partout, en fait.
Voilà où je voulais vous entraîner.
C'est la Super League. En Europe, c'est la Super League du Benelux. Et en fait, ils ne comprennent pas ces gens du foot. Ils parlaient de l'indécence dans le football, Sébastien, tout à l'heure. De la volonté de l'argent, ils ne comprennent pas que ce qui intéresse les auditeurs d'RTL, ce qui intéresse les lecteurs du Parisien, de l'équipe, c'est notre feuilleton, c'est notre Strasbourg PSG, c'est notre sûr. Anderlecht Moucron.
On ne va pas refaire un débat sur la Ligue des Champions fermée parce que ça va revenir
bah
sur
oui,
la...
mais, c'est ce...
mais vous avez raison.
Les décideurs
mais...
ne comprennent pas que notre feuilleton, mais... c'est notre.
C'est une mauvaise idée.
Je pense que vous êtes capable, Stéphane Poels, d'avoir une vision un peu géopolitique de cette affaire également.
Et Pascal Boniface,
il y a du lobby flamand.
Est-ce qu'il n'y a pas un lobby flamand pour aller jouer face Christian, au club néerlandais.
Christian, il reste trois clubs en Wallonie, donc c'est la partie francophone du pays. Il reste 12 minutes, Stéphane. Charleroi et Moucron. Moucron, ben, je vous expliquais avec Lopez, c'est un club qui est tout le temps à moitié mort chaque saison. Charleroi, le président de Charleroi, il n'y avait pas qu'en France que ça existe, et aussi président de l'Union belge, Mehdi Bayat, donc lui, il a envie. Donc ça va servir qu'aux riches, quoi. Et le reste, c'est six clubs flamands. Genk, la Gantoise, Bruges. Donc il y a du lobby.
Bon.
Géopolitique, il y a du lobby.
Et Sébastien dit qu'on s'en fout, donc on s'en fout.
Non. Une blague hors antenne.
À une époque.
Christian.
Je pense que le football belge est malade, il ferait mieux de se fédérer et de rester.
Ne relançons pas la machine, passons aux tirs au but.
Non, pas tout à fait. Souvenez-vous, il y a quelques années, on évoquait la possibilité de voir Barcelone jouer dans le championnat de France.
Nous sommes bien d'accord.
En raison de la
géopolitique. Personne n'y a cru un instant.
Moi, je pense qu'en Belgique, ça ne va pas se faire.
Ça a quand même fait couler pas mal d'encre et de salive.
C'était pas sérieux, c'était uniquement par rapport aux volontés d'indépendance de la Catalogne.
Et vous savez qu'il y a des droits TV aussi, tout ça, et en Belgique, ça ne se fera pas, parce qu'à un moment, il y aura un tel lobby qui vont arrêter. Ce dossier.
Mais on fera un débat de toute façon sur la ligue fermée, ouverte, semi-fermée, parce que de toute façon ça nous pend au bout du nez.
Serpent de mer, effectivement.
Avec Sébastien, t'as raison.
Ce qui est marrant, c'est que l'année dernière, il y a trois championnats qui se sont arrêtés assez vite, c'est la Belgique, les Pays-Bas et la France.
Ouais.
Alors que les autres ont continué.
Je vous répète que dans deux matchs, il n'y a plus de championnat en Belgique. Les quatre premiers vont jouer pour le titre. Les quatre de la quatrième à la huitième place, ils vont jouer pour une place en européenne et les autres, le championnat est fini.
Après, qu'il y ait une réflexion en Belgique, moi je regarde ça d'un œil extérieur, mais qu'il y ait une réflexion sur le fait que ce pays n'est plus, comme tu le disais, le moindre représentant sur la scène européenne, alors qu'il y a un vivier de joueurs extraordinaire, qu'il y a une équipe nationale qui
il y a 9 millions de Portugais, 10 millions de Belges.
Au sommet, que c'est un pays qui historiquement est un pays de football exceptionnel, voir où se trouvent les clubs belges aujourd'hui, c'est quand même un peu désastreux.
De la mauvaise gestion, ça veut dire qu'il y a des mauvais dirigeants, de la mauvaise gestion, il faut dire les choses.
Bon.
Et voilà. Et donc, il faut revenir aux vraies bases, former des jeunes, revenir solide et essayons de jouer entre nous. Ça ne sert à rien.
Ça ne dit pas qu'il y a un classement du Paris FC, tout ça.
Une nouvelle page de publicité, ensuite les tirs au but avec la question Ligue 2. A tout de suite, si on fait le match les 10 dernières minutes avant RTL Foot, 20h-23h.
RTL, on refait le match.
On refait le match sur RTL
avec Christian Olivier.
Les tirs au but. Vous attendez, messieurs, le coup de sifflet de l'arbitre, évidemment, pour dégainer. Et au fur et à mesure, les plus faibles sont éliminés. La fameuse question Ligue 2. J'ai essayé vraiment de faire plaisir à Sébastien Tarrago ce soir, car j'ai tout fait. L'actualité joueur, l'actualité président, l'actualité économique, les actionnaires, toutes les questions d'actualité ont été proposées. Et j'ai vraiment eu du mal à vous intéresser à la Ligue 2. Mais là, on a un spécialiste, c'est Sébastien Tarrago. Et donc, j'ai trouvé un insolite
Chambly,
Ligue 2. Un insolite Ligue 2.
Un insolite. Qui est le directeur financier de Grenoble.
Je lis là, je suis obligé de lire pour ne pas me tromper. Quelle équipe de Ligue 2 possède le nombre record de buts marqués contre son camp au moment où je vous parle? Toute compétition confondue, c'est du jamais vu et dans l'histoire du club, et puisque c'est un record, du jamais vu dans l'histoire de la Ligue 2.
Pau.
C'est pointu. Hein.
Pau.
Châteauroux.
Non. Cap à l'Est.
Chambly.
Cap à l'Est.
Nancy,
7 buts dans le championnat de France de Ligue 2, plus 1 en Coupe de France.
Ils sont pas bien.
Au moment où je vous parle, 8 buts contre son camp, c'est un record absolu dans l'histoire du championnat de France, et ce n'est
est-ce
peut-être
que c'est le même
pas
joueur
terminé.
À chaque fois ou pas?
Pardon, non, c'est pas le même joueur.
Non, c'est si vite,
cherchez un buteur. Oh, j'avoue, c'est pointu, mais c'était voilà.
Cherchez
mais je crois qu'on va arrêter.
Non, mais c'est intéressant. Hein.
Voilà,
c'est... Non, mais c'était bien. C'est... Franchement, Christian.
C'était bien.
Bah, vous avez bossé.
Non, mais en plus,
vous avez bossé.
Vous êtes lancé là-dessus, mais la Ligue 2 est devenue passionnante pour tout un tas de raisons, et notamment par.
parce qu'il y a certaines personnalités sur les bancs de touche qu'on avait l'habitude de voir à un plus haut niveau. Et voilà, des clubs comme Le Havre qui doivent être 12e ou 13e, je ne sais plus.
Avec Paul Le Guen.
Y a Paul Le Guen. Enfin, il y a des gros clubs, ce qu'on appelle des gros clubs. Le Havre demeure un grand club français. Ouais. Dans l'imaginaire, Toulouse, il y a plein de choses passionnantes.
Allez, autre tirage.
Et Châteauroux, vous parlez de Châteauroux, ils vont tomber avec Michel Denisot président, Marco Simonet sur le banc.
Et avec un nouvel
actionnaire. Oui, mais ça, ils le savaient quand ils sont arrivés.
Bon, autre tir au but. La FIFA, Fédération Internationale de Football Association, pourrait mettre en place un système automatisé pour déterminer les hors-jeux lors du mondial au Qatar. Comme pour la Goal Line Technologie, c'est un signal qui serait envoyé immédiatement au juge de touche. Qui est la cheville ouvrière de ce projet, monsieur Arsène Wenger? Pour ou contre cette nouvelle intelligence artificielle dans le football?
Contre. Ils ne savent déjà pas gérer avec la VAR, c'est déjà un bordel sans nom. Alors comment on va encore inventer encore un truc en plus? Gérons d'abord, essayons d'abord de faire fonctionner ce qui fonctionne pour encore nous pondre des trucs supplémentaires. Le seul truc qui fonctionne, c'est la ligne de but, comme vous dites, ça fonctionne pas
mal.
Oui,
c'est pareil justement.
Mais, c'est pareil, je suis pas sûr comment ils vont gérer, ils savent déjà pas gérer.
S'ils mettent ça en place, Stéphane, j'imagine, j'espère
que ça marche.
Parce que ça marche. Et donc pour le coup, si on peut arrêter d'avoir des débats justement avec la Goal Line Technologie, on a arrêté d'avoir des débats. C'est scientifique. Ouais. Le ballon est rentré, il est pas rentré, etc. Bon, le problème de la VAR aujourd'hui, c'est encore les arbitres en fait, parce qu'ils y comprennent rien et souvent. Et donc c'est une catastrophe. Mais et que en plus parfois l'outil technologique, l'outil technologique ne permet pas parfois de savoir. Mais sur une histoire de ligne, de hors jeu.
Faut peut-être essayer, mais pas mettre plus dans le ballon. Comment ça marcherait? Parce que moi j'ai toujours
Comment ça marche?
Moi j'ai pas compris. C'est la robotisation du football. Oui. Moi je veux qu'il y ait des juges assistants. Je veux qu'il y ait des arbitres centraux.
Il faut tout arrêter, Sébastien. Mais je veux un truc intéressant, c'est que parce que souvent les anti-VAR entre guillemets ont fait passer l'idée qu'on aime les injustices. Non, pas du tout. C'est juste qu'on veut garder humain le football et l'appréciation et que l'arbitre prennent ses responsabilités.
Bah oui, qu'il ne fait plus.
Moi, comme pour la Goal Line Technologie, si vraiment on a l'assurance que cette technologie fonctionne à 100%, au moins on n'aura plus des débats pendant 4 heures devant un écran. Est-ce que le pied est sorti, le ballon est sorti du pied?
Eh bien, mettons plus de vidéo du
si
tout.
Vraiment,
revenons à l'humain, avec un arbitre qui peut faire des erreurs.
Non, mais justement,
revenons à nous casser les pieds d'arrêter un match 10 minutes parce qu'il y a un mec qui va devant un écran pour te dire qu'il est hors jeu ou pas.
L'appréciation derrière le pénalty à Metz-Lille, c'est interminable.
On peut faire un truc.
Interminable.
Est-ce qu'il y a main ou pas de fond?
Mais justement, là, l'idée. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais là, l'idée, c'est que ça marche. Et que justement, il n'y ait plus de débat et que ça aille vite.
Mais comment ça marche?
Un troisième tir au but.
Comment ça marche, la Goal Line Technologie?
Vite fait, un troisième tir au but. J'ai découvert, il y a une dizaine de jours, via un communiqué, que la Ligue du football professionnel lançait sa première compétition e-sport. Alors, le foot via les jeux électroniques sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que c'est une idée géniale pour renforcer la notoriété de la Ligue 1 de par le monde?
Ouais, on va faire.
Éliminer Powels.
Pardon.
Mais pas c'est surtout un moyen de capter un public jeune. Et vous savez aujourd'hui qu'il y a des études qui montrent que les jeunes se détournent du football, que le confinement n'a pas été bon, que peut-être l'image du football n'est pas toujours bonne et qu'il y a des jeunes qui s'en vont. Donc il y a le fameux fils d'Agnelli qui propose qu'on réduise les matchs de 90 minutes à 50 parce que c'est pour les calquer sur des formats Netflix.
Et le père va faire payer un abonnement sur les 15 dernières minutes.
Voilà,
mais là, je parle des jeux.
On va former des petits gros.
Il faut capter des nouveaux.
Formons des petits gros.
Non,
on va donner à bouffer du Coca-Cola, des
McDo. Suffisamment fort, puissant, il y a suffisamment de valeur, de qualité intrinsèque dans ce jeu pour qu'on n'aille pas en faire une mayonnaise avec quelque chose qui est complètement différent.
Vous ne comprenez pas que le monde bouge.
J'ai rien contre les jeux vidéo, mais ce sont deux mondes différents. Oui. On peut aussi faire des concours de cuisine avec des chaussures
de
foot. Et on fera
dans l'outrance, du foot sport.
Je suis d'accord avec Philippe.
Dans l'outrance.
Le mélange des genres.
Soyez moderne, Philippe.
Le mélange des genres.
Soyez moderne.
Ça nuit aux deux.
Allez.
À l'un et à l'autre.
Bon, Sébastien Tarrago, merci.
Merci à vous.
Continue son.
Clermont est troisième.
Ce petit message.
Mais je regarde ce qui se passe en Ligue 2.
Sébastien Clermont.
Clermont est troisième avec un match en moins.
Merci Stéphane Powell.
Merci à l'Auxerre.
Merci à Dominique Sévrac.
Moi, c'est Lyon.
Merci.
Lyon n'est plus en Ligue 2.
Non, ça.
Merci Philippe Sampour.
Merci Christian.
Merci Damien à la réalisation. Alors, Pascal Pro me dit Le Havre, non, n'est pas un grand club.
Ah bon?
Bien sûr. C'est le doyen des clubs français.
Alors, c'est pas parce que t'es doyen.
c'était un grand mais ça, club.
Enfin, il n'a pas écouté jusqu'au bout. Lui aussi, il a des problèmes d'oreille. C'est dans l'imaginaire.
J'ai dit. Il vous a répondu tout à l'heure.
Pascal, on t'embrasse quand même.
Et on t'aime, Pascal Pro. 19h58. Merci à Damien, réalisation. Merci à Baptiste Durieux pour les messages. Et surtout, 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 merci à vous tous de votre fidélité. Après 20h, RTL Foot avec Xavier Domergue, Giovanni Castaldi, Quentin Vasselin et Raymond Abou. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Ciao, ciao.